Alors, nous avons eu un peu de problème de connexion, de mise à jour des connexions pour commencer. Donc, je crois que maintenant, c'est bon et je pense qu'on m'entend. Ici, oui, à distance aussi. Et donc, je vais commencer sans plus tarder cette séance par trois remarques que j'ai formulé entre les deux séances, celle de la dernière fois et celle-ci, suite aux questions qui sont arrivées à la fin de la séance précédente. Donc voici la première remarque pour faire l'articulation entre les séances. Donc au cours de la séance précédente, j'ai fait une hypothèse, à savoir que la faiblesse est l'élément à la fois initial et commun de toute vie humaine. Bon, je pourrais faire...
Excuse-moi, je vais le mettre là parce que je pense que t'es un peu loin.
Je pourrais faire une remarque dans la remarque pour dire que j'ai d'ailleurs éliminé dans mes notes pendant ces 15 jours, pour dire que... Il y a un petit peu le même raisonnement que fait Jacques Rancière à propos de l'égalité quand il dit on pense trop souvent l'égalité comme étant quelque chose à produire, alors qu'on pourrait faire l'hypothèse inverse en disant qu'elle existe déjà. Donc je ferai la même chose pour la faiblesse, pour le commun, pardon. C'est-à-dire que le commun, en adoptant l'hypothèse que je vous suggère, vous pouvez le penser non pas comme étant quelque chose qu'il faut chercher à exister, mais plutôt comme étant quelque chose qu'il faudrait, alors je ne sais pas si c'est le bon verbe, retrouver. Hein. En tout cas, voilà, j'ai fait cette hypothèse que la faiblesse était l'élément à la fois initial et commun de toute vie humaine. Donc nous commençons par être faibles à la naissance. Alors dans l'enregistrement de cette séance... Pour faire comprendre ce que pouvait être la qualité de ce commun, il apparaît, je l'ai malheureusement remarqué en écoutant la séance, que je prononce sans précaution le mot de semblable. Je dis ça, c'était pas dans mes notes d'ailleurs, mais je l'ai dit, et je le dis au moins trois fois, cet adjectif semblable que j'ai fait venir en même temps que commun, et c'est là-dessus que je voudrais revenir. Parce que je pense que cette association n'est pas juste, et en tout cas, ce n'est pas ce que je pense profondément. Donc c'est regrettable que j'ai fait cette association, car c'est plutôt singulièrement que chacun est dans la faiblesse. C'est-à-dire que c'est peut-être l'élément commun, mais ça ne veut pas dire que cet élément commun est identiquement présent. Donc c'est plutôt singulièrement que chacun est dans la faiblesse. Donc retirez, s'il vous plaît, le mot semblable de la séance précédente. Pourquoi c'est singulièrement que chacun est dans la faiblesse? Parce qu'il y va de corps et de corporéité qui ne sont pas les mêmes et qui se différencient d'entrée. Il y va, pour le dire autrement, d'une nature... porté par la différence avec un A. Alors j'avais quand même conclu là-dessus en rappelant ce mot de Derrida écrit avec un A. Donc nous sommes initialement faibles et dans la différence, pour des raisons qui tiennent justement au corps, aux corporéités. Il y va d'une nature portée par la différence et comprise comme, je cite une expression que j'ai trouvée dans un livre de Frédéric Nera, « La part inconstructible de la Terre », qui date de 2016, il y va d'une nature portée par la différence et comprise comme, dit Frédéric Nera, cette expression me convient tout à fait, « différenciant ontologique ». Donc, il propose ça. Bon, ça serait évidemment un autre sujet, je ne vais pas développer. Il tient à soutenir une idée de la nature comme étant une idée qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est un propos qui est formulé plutôt contre Latour. Et il propose à un moment, dans son livre, cette expression que je trouve tout à fait juste, différenciant ontologique. Naturellement, nous sommes dans la différence, et la nature est un différenciant. Donc c'est pour ça que si on est faible, si nous sommes faibles à la naissance, nous ne sommes pas identiquement, mais singulièrement faibles à la naissance. Je pense qu'il fallait que je le précise à cause de l'advenue malheureuse de l'adjectif semblable dans mon propos d'il y a 15 jours. D'ailleurs, Merleau-Ponty, auquel je me référais il y a 15 jours, sur qui je me suis appuyé dans la séance, parle non, vous vous souvenez peut-être, du vide en soi comblé par des mots sur lesquels j'avais médité, comme si ce vide était le même pour tout le monde, il parle d'un certain vide en soi. Si on lit bien le texte, un certain vide en soi, pas forcément le même pour tout le monde. Il y a un certain vide qui nous anime, qui nous fait parler, c'était ça la thèse de Merleau-Ponty. En quoi nous sommes communs, c'était ma thèse d'il y a 15 jours, mais ce certain vide, un certain vide en soi à combler par des mots, il ne faut pas le lire vite comme signalant que c'est le même chez tous. Donc ça, c'est ma première remarque, disons, de mise au point par rapport à la précédente séance. Deuxième remarque, rédigé pour mieux répondre aux questions que m'avait adressées Yves Citon, que je salue parce que je crois qu'il est là de nouveau ce soir, à distance. Alors, s'il est commun que nous soyons initialement faibles et singulièrement faibles, il est également commun, point que je n'avais pas développé, mais qu'il faut que les questions qui m'ont été posées m'amènent à souligner, à préciser, il est également commun que nous ne demeurions pas dans la faiblesse singulière de l'état infantile. Et il est également commun que nous nous trouvions en quelque sorte défendus. Alors je vais pas mal revenir sur ce mot ce soir. La défense, qui est un mot ambigu, parce que finalement, être défendu, c'est être protégé. Et puis, bien entendu, il y a en même temps, dans la défense, les connotations de l'interdit, etc. Bon, donc on va un peu réfléchir là-dessus. En tout cas, je vais essayer. Donc il est commun également que nous nous trouvions en quelque sorte défendus dans l'état de faiblesse initiale infantile, que nous soyons défendus de cette faiblesse même par les soins, par les constructions qui se proposent depuis les autres et avec les autres. Les soins et les constructions qui se proposent pour nous avec et depuis les autres. Heureusement qu'il est auprès de nous d'autres qui nous soignent dans cet état de faiblesse infantile. C'est commun ça aussi. Que les autres s'occupent de nous, que des autres s'occupent de nous. Le problème auquel, dans toute cette affaire, me fait penser le fameux « comme non » paulinien sur lequel je médite depuis plusieurs séances, le problème auquel donc me fait penser le « comme non » paulinien concerne le statut de cette défense, la façon dont les autres ou quelques autres nous défendent de notre propre faiblesse initiale. Donc le problème auquel me fait penser le comme non paulinien concerne le statut de cette défense et je dirais sa suffisance possible. J'entends ce dernier mot suffisance comme lorsqu'il signifie l'état d'un esprit qui a une très et même trop haute idée de sa valeur. Donc, le problème que je voudrais un tout petit peu définir à l'instant, c'est que la construction de nous depuis les autres qui s'occupent de nous. Cette construction de nos personnes, de nos personnalités, si vous voulez que je prenne un langage plus ordinaire, cette construction qui nous vient des autres, qui n'aurait pas lieu sans les autres, qui nous défendent de notre propre faiblesse, le problème de cette construction, c'est sa suffisance au sens où on dit de quelqu'un il est suffisant celui-là, c'est-à-dire il est trop, quoi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un excès. Donc c'est un excès de soin, si vous voulez, ou un excès de défense qui me semble être mis en question par le comme non paulinien, en tout cas dans ma façon de le lire très, sans doute, disons, très libre, je dirais. Ce que je mets en discussion, ce que je voudrais mettre en discussion, c'est une certaine surestimation du soi, de la personne, ce qu'on appelle le soi-même, qui je suis, moi, voilà, une certaine surestimation du soi défendu et finalement piégé par sa propre construction comme sujet grâce aux autres. Peut-être que le sujet ordinaire, le sujet subjectivé dont je parle depuis plusieurs séances, qui va et vient dans le monde comme il est, et qui n'est pas forcément le meilleur des mondes possibles, sinon il ne serait pas en état d'urgence. Donc ceux qui vont et viennent dans le monde comme il est sont des mondes, sont des êtres qui sont, dont les personnalités sont bien défendues, et peut-être trop défendues, se défendent trop. Et dans cette défense de la faiblesse ou contre la faiblesse qui construit la personnalité, il se peut finalement que le sujet bien défendu se trouve finalement piégé par sa propre construction comme sujet grâce aux autres. Mon interprétation de la conversion par l'urgence tient à discuter cette affaire. S'il est indispensable que chacun soit construit, faut-il pour autant que cette construction fixe et chacun et enclose, si j'ose dire, chacun. C'est-à-dire, au fond, pour le dire autrement, quand on est une personnalité construite, comment faire pour continuer à, je vais lâcher le mot, hein, à exister vraiment, c'est-à-dire à pouvoir se tenir dans le monde comme si sa construction n'était jamais terminée. Hein? Quel cage qu'on ait. Voilà. Exister. Exister, c'est d'en avoir jamais fini avec sa propre construction. Mais peut-être qu'un sujet bien subjectivé, qui va et vient à l'aise dans le monde comme il est, quel que soit ce monde, est un sujet qui précisément... se trouve enclos, bien enclos, dans sa construction comme sujet. Hein, je vous rappelle, l'enclos, c'est un mot qu'on trouve dans le livre de Badiou, la clôture, et puis c'est aussi une métaphore qu'on avait trouvée, je pense que vous en souvenez, dans les quelques textes de Simone Veil que je vous avais lus au passage. Donc voilà la question. Voici plutôt la question. S'il est indispensable que chacun soit construit, faut-il pour autant que cette construction le fixe et l'enclose. Si c'était le cas, s'il le fallait, dit, à mon sens, en substance, le texte de Paul, que je lis donc à ma façon, à 20 siècles de distance, si c'était le cas, s'il était indispensable que le sujet soit fixé et enclos dans sa propre construction, alors, c'est ça que je pense, en tout cas, c'est ce que le texte de Paul me fait penser. Alors, le sujet ne serait pas, comme il dit lui, justifié. Que la question, c'est de voir qu'est-ce qui justifie un sujet. À la fin des fins, le sujet enclos, bien construit, pouvant aller et venir dans le monde, à la fin des fins, il n'est pas justifié. Ce qui le justifie, ce qui le rend juste, ce qui le justifie à la fin des fins, c'est d'avoir... cette position qui implique, qui est décrite dans le texte avec cette fameuse formule relevée « et comment » par Agamben, « comme non ». Voilà. Ce sont la justesse et les ajustements de ce que j'appelle depuis quelques minutes « construction » de la personnalité. Ce sont la justesse et les ajustements de la construction de la personnalité que l'urgence conduit à interroger. C'est-à-dire, en fait, quand je fais l'expérience de l'urgence... Ce qui m'arrive, c'est que, je pourrais dire dans un langage tout à fait banal, je ne sais plus où j'en suis. Il y a un moment où, qui est le moment de la conversion, je ne sais plus où j'en suis, c'est-à-dire mes défenses ne sont plus suffisantes. Je ne peux plus me conduire dans le monde avec la suffisance qui est celle que je crois être la mienne, quand je vais et viens dans le monde sans en sentir l'urgence. Voilà. Donc ce sont la justesse et les ajustements de la construction de la personnalité que l'urgence conduit à interroger. En jeu, dès lors, non pas la poursuite de et dans la construction de la personnalité, non pas la poursuite de et dans la défense de cette construction, en jeu plutôt, dès lors, une déconstruction capable d'arrêter, de paralyser, de torpiller la poursuite de la construction personnelle. La poursuite de la construction personnelle dans sa propre défense. Donc j'ai pris tous ces mots, déconstruction, alors c'est un mot de Derrida, qui ne veut pas dire destruction. En tout cas, moi, j'ai jamais compris que Derrida voulait dire ça quand il disait déconstruction. Alors je sais que le mot a été remis dans le langage politique ces temps-ci. Je ne suis pas sûr que celle qui l'a mis ait tout à fait lu Derrida, comme, en tout cas pas comme moi. Déconstruction, ça ne veut pas dire démolition. Voilà. C'est le sujet qui dit « je ne sais plus où j'en suis », il n'est pas pour autant redevenu dans sa faiblesse archaïque initiale. Et puis j'ai pensé à d'autres mots à lier à cette déconstruction. J'ai mis sur mes notes, je viens de vous les dire, paralyser, torpiller. L'expérience de l'urgence paralyse, déconstruit la personnalité comme elle est construite. Voilà. Alors, le torpiller, bon, j'ai pas eu le temps de. Plutôt, je l'ai pas pris le temps, parce qu'au fond, je l'avais, mais je m'aperçois que j'ai pensé à torpiller, paralyser, parce que c'est le reproche qui est adressé, si je me souviens bien, c'est dans le Ménon de Platon, à Socrate, avec ses questions. Ah oui, tu nous paralyses, on sait plus quoi penser, et il est comparé à une torpille, hein, qui paralyse, justement. Bon, c'est ça qui se passerait pour moi avec le sentiment de l'urgence. Quelque chose comme un torpillage de la personnalité bien construite, capable d'aller et venir dans le monde sans se poser de questions particulières. Il s'agit, pour qui vient de faire l'expérience d'une brèche, d'un passage, d'une trouée, il s'agit de faire plus généralement droit aux brèches, aux passages, aux trouées. Alors, c'est ça qu'on ne fait pas dans l'ordinaire de la vie quand on est une personnalité qui se tient bien dans le monde comme il est. C'est qu'on ne fait pas droit à ses propres faiblesses, aux brèches de sa personnalité, au passage, aux trouées. Je cherche les métaphores qui sont, à mon avis, dans tous ces textes que je lis, au fond, depuis Paul, Simone Veil, etc. Hein, les brèches, les passages, les trouées. Il s'agit de faire droit à ça. Bref, il s'agit de faire droit aux failles et aux faiblesses intimes de l'édifice personnel, au raccord par définition fragile de son propre étayage comme personnalité. Ce serait peut-être ça la question décisive du comme non, hein, c'est-à-dire il y a ceux qui ne font pas droit aux faiblesses, aux raccords, aux fragilités de leur propre étayage comme personne construite, et puis il y a ceux, les comme non, là, ceux qui qu'une certaine expérience a ouvert à leur propre brèche, à leur propre faiblesse, et qui sont dans la fragilité de l'étayage ordinaire de la personnalité. Il s'agit de repérer en conséquence à quel point et à quels endroits celui ou celle qui a fait l'expérience de l'urgence est passé d'une construction utile de la personnalité à celle d'une défense de cette construction même. Je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse à cette différence. Donc je résume ma deuxième remarque introductive. Il est utile et commun que nous soyons construits comme personnes, que nous ne demeurions pas dans l'état de faiblesse initiale. Heureusement, les autres s'occupent de nous, nous construisent, etc. Bon, c'est utile. Et il y a une dimension d'utilité commune de la construction de la personnalité. Mais il peut y avoir un stade, si j'ose dire, où c'est trop, au sens de la suffisance que je disais tout à l'heure, où en fait, nous nous conduisons dans le monde non pas pour nous construire comme personnes, mais pour défendre notre construction comme personne. Et ce n'est pas la même chose du tout. Alors on peut passer des situations personnelles aux situations collectives. La construction d'un collectif humain est utile. La défense de cette construction même, en tant que telle, elle peut devenir beaucoup plus problématique. Défendre une construction et construire, ce n'est pas la même chose. Voilà. Et donc je pense que c'est là qu'il faudrait qu'on discute et qu'on repère la différence entre construire un monde et défendre la construction d'un monde. Construire une personnalité et défendre la construction d'une personnalité. Bon, ça, c'est ma deuxième remarque. Ça va ? Bon. Alors, la troisième. Citon m'avait posé une question sur les langues. Hein, j'avais parlé de Merleau-Ponty, la parole, les langues. Bon. Alors, les langues, elles sont du monde. C'est-à-dire, je ne sais pas comment dire ça, une question que je me suis toujours posée, elles sont où les langues ? Voilà. Entre nous. Voilà. Donc, en tout cas, j'y ai accès, je suis articulé à la langue française, par exemple, et à quelques autres, éventuellement. Mais les langues, elles sont du monde. Je ne trouve pas comment le dire mieux que comme ça. Hein. Elles sont de l'ordre du monde. Mais j'enlève le mot « ordre » pour des tas de raisons. Elles sont du monde, elles sont dans le monde, et chaque sujet mondanisé, ou subjectivé, si vous préférez, dans le langage des séances précédentes, chaque sujet mondanisé qui va et vient selon les usages mondains, est muni par les langues de capacité à communiquer et à recevoir des communications. Et il semble bien qu'en l'état, chaque langue soit une sorte de bien commun, en tout cas une donnée partagée, grâce à quoi chacun peut être non pas avec tous, car il y a une barrière des langues. C'est-à-dire que les langues permettent à des collectifs qui sont, ce que souligne, sans prendre l'exemple de la langue badiou, c'est une communauté particulière. La langue française, la langue italienne, la langue allemande, la langue, etc. Il n'y a pas de langue universelle. Les langues permettent à chacun d'être non pas avec tous, avec tous les humains, mais tout de même avec d'autres humains. La langue permet à chacun ou à chaque un d'être avec d'autres, pas avec tous, mais avec d'autres. Pour le dire autrement, toute langue munit un être avec. Alors, moi, c'est facile parce que j'ai mes notes sous les yeux, et dans ce que je vais dire dans les minutes qui viennent, être avec, je mets un trait d'union entre être et avec. Hein, c'est une espèce de concept, l'être avec. Voilà. Nous sommes ça, nous sommes des êtres avec. Une fois construit comme personne. Nous sommes des êtres avec. Donc, pour le dire autrement, toute langue munit un être avec, et tout être avec se munit des munitions de la langue dans laquelle il se trouve être, munitions qui, au fond, ne sont rien d'autre qu'une culture, que des significations établies déjà et portées par des phrases proférées déjà. Qu'est-ce que c'est qu'une langue ? C'est un ensemble de phrases déjà dites, c'est un ensemble de significations déjà déposées précisément dans la langue. C'était ça la question de Merleau-Ponty. Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment parler ? C'est pas seulement puiser dans le trésor de la langue cultivée, c'est-à-dire telle qu'elle a déjà été dite et parlée, c'est la parler d'une manière inédite. C'est un drôle de travail qui fait qu'on dit quelque chose dans une langue qui est faite de significations établies pour y faire exister quelque chose qui n'a pas déjà été dit dans la langue, si on parle vraiment, si on ne fait pas que communiquer. L'analyse que fait Merleau-Ponty de la parole vient dire... C'est ça que j'essayais de faire comprendre il y a 15 jours. L'analyse que fait Merleau-Ponty de la parole vient dire que parler, ce n'est pas seulement puiser dans le trésor de munitions qu'est la langue et s'en servir. Ou le resservir, en fait. Hein. Parler vraiment, ça n'est pas resservir la langue, comme elle a déjà été parlée. Non, c'est fondamentalement même... modifier ce trésor de munitions qu'est la langue. Je dis modifier, Merleau-Ponty, dans son texte, dit appareiller. Hein, la parole appareille la langue. Donc, parler vraiment, c'est fondamentalement appareiller la langue, Ce qui n'est pensable, dit Merleau-Ponty, qu'à cette condition, le sujet parlant, le sujet quand il parle vraiment, quand il ne fait pas seulement ou simplement usage de la langue, ne trouve pas dans sa part actuelle de langue ce qu'il cherche à dire. Donc, la part actuelle de langue qui est la mienne, c'est ce qui me permet de communiquer tous les jours avec vous, avec quiconque je rencontrerai. Et je ne me pose pas de questions sur ce que je veux dire quand je vis couramment dans l'ordre de la communication. Mais parfois, je me demande, je cherche à dire quelque chose. Alors là, je me mets éventuellement à parler vraiment, mais à ce moment-là, je n'ai pas les mots déjà pour le dire. Il faut que je cherche. Voilà. Le sujet, quand il parle vraiment, ne fait pas seulement usage de la langue, ne trouve pas dans sa part actuelle de langue ce qu'il cherche à dire. Il n'est pas, autrement dit, plein déjà de ce qu'il se met à signifier. Et les significations qui sont à sa portée, déjà disponibles pour lui, ne le comblent pas. Hein, il y avait ce mot était dans le texte de Merleau-Ponty. Hein. Ce que dit Merleau-Ponty, c'est que si les langues sont parlées et par des paroles non seulement utilisées, mais nourries, mais alimentées, et ainsi nourries et alimentées de paroles modifiées, si c'est comme ça, c'est en raison de la situation paradoxale du sujet parlant. Autour de l'intime qu'est ce sujet, alors ça c'est moi qui parle, hein, à ma façon, là, autour de l'intime qu'est ce sujet, environnant et entourant cet intime, il y a une sorte de plein de signification. Donc c'est, voilà notre situation. Autour de nous, plein de signification, un plein de signification déjà dit, etc., que tout le monde connaît déjà, grâce à quoi nous pouvons communiquer. Hein. Donc autour, environnant le sujet, un plein de signification, mais en lui, dans le sujet, au contraire, un certain vide. L'épreuve d'un vide, d'un non-dit, pour lui, dans le plein de langage alentour. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet parlant ? C'est un sujet qui, comment dire, fait l'épreuve en soi d'un vide, pour lui, dans le plein de langage alentour. C'est-à-dire, tout ce qui se dit autour de moi, c'est pas ça que je cherche à dire. Voilà. Et alors je me mets à parler. Ce que j'ai cherché à dire de mon côté, c'est que cette situation fait comprendre à sa façon et dans son champ ce qu'il peut en être d'un user de la langue comme n'en usant pas, expression de Paul, plus précisément d'un être dans la langue comme n'y étant pas. Qui n'use pas de la langue, qui n'y est pas, c'est l'infans, littéralement en latin, hein, infans, qui ne parle pas. Qui n'est pas dans la langue, qui n'use pas de la langue, c'est l'infance. Donc, être dans la langue comme n'y étant pas, c'est être dans la langue comme l'infance. Enfin, il est précisément, il n'est pas dans la langue. Hein, donc, peut-être que c'est ça, c'est cette situation que j'essaye de trouver les traits, si vous voulez. Tout simplement dit, c'est il m'arrive quelque chose et je ne sais pas quoi dire. Voilà. Il faut que je dise quelque chose là-dessus parce que je ne peux pas garder ça pour moi, mais je ne sais pas quoi dire. Voilà. Il m'arrive quelque chose, pourquoi le plein de signification alentour ne me comble pas. Et autrement dit, je suis dans la situation de l'infance, hein, qui n'a pas la parole, voilà, qui n'a pas encore la parole. Je cherche en conséquence à faire penser à l'état d'un sujet qui se situe dans la langue, qui dit « je », qui dit « tu », qui dit « nous », qui distingue toutes ces positions subjectives. « Je »,« tu », »,« nous », c'est pas la même chose. Il le sait, le sujet qui communique. Voilà. Il a nombre de ce sujet de capacités signifiantes, avec, autour de lui. Donc je cherche à faire penser l'état de ce sujet dans la langue et qui, cependant, peut encore, à l'occasion, ne pas savoir ni quoi ni comment dire. Quelles sont les conditions de cette occasion de naïveté substantiellement révocatrice du savoir-dire dans lequel peut se trouver le sujet avec. Alors c'est un peu, évidemment, c'est pas courant de parler comme ça, mais j'espère que je réussis à faire entendre quand même cette phrase-là. Quelles sont les conditions de telle ou telle occasion de naïveté pour nous? Voilà. Je veux dire, pour décontracter, ça ferait peut-être pas de mal au monde, et à moi en particulier, et à nous en particulier, à chacun d'entre nous en particulier, mais pas de mal au monde aussi, si nous étions plus naïfs. Voilà. Si les occasions de naïveté se présentaient. Et c'est ça que je vais chercher maintenant, à définir ces occasions de naïveté. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elles se présentent? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, plus exactement, pour qu'elles se présentent? Quelles sont les conditions des occasions de naïveté substantiellement révocatrices du savoir-dire, pardon, dans lequel peut se trouver le sujet avec bien construit? C'est ce que je voudrais parvenir à formuler désormais. Je trouve pour l'heure, ou je vous dis pour l'heure, qu'il y va d'une rencontre, accidentelle comme toute rencontre, et qui a, en l'occurrence, les traits d'une urgence. Il faut avoir rencontré un accident, ce que je n'ai pas encore défini, un accident qui a les traits d'une urgence pour que je me retrouve, tel l'enfant, déconstruit, si vous voulez, comme non, etc., etc. Un sujet a été en une occasion au moins pressé, a été par quelque chose mis en état de presse ou d'urgence, et par là même, sans se mettre pour autant en demeure de quitter le monde du langage et de l'être avec, se retrouvant dans ce monde, mais désormais urgemment, se retrouve par ce fait même comme naïf et impuissant. Il est donc, dans le langage comme non, à ne plus savoir quoi ni comment dire. Plus tard, je pense que ça ne sera pas pour cette année, j'inscrirai ce genre de situation dans le registre d'un sentiment et d'une émotion, je fais exprès de parler comme ça, motion, vous avez mouvement, et ex hors d'eux. Donc l'ému, l'être ému, c'est l'être qui est sorti de son état d'être construit. Une émotion véritable, si vous voulez, conceptuellement définie. En tout cas, c'est de ça que je parlerai, en fait, l'année prochaine. Donc, si on a encore envie de parler de tout ça l'année prochaine. La situation, la rencontre accidentelle, etc., elle est l'occasion pour le sujet de se retrouver dans le registre du sentiment et de se trouver dans le registre du sentiment et de l'émotion. Sentiment et émotion qui sont susceptibles, c'est ce que je voudrais parvenir à établir petit à petit, d'entretenir un espoir. Mais je n'aurai pas le temps de parler de ça cette année. J'ai été trop lent dans les séances précédentes et dans celle-ci aussi d'ailleurs. Bon. Voilà. Donc il y a une espèce de... Je ne sais pas comment dire ça, de suite, un accident, une rencontre accidentelle de quelque chose, voilà, qui presse le sujet, qui le met hors de ses défenses, de sujet bien construit, qui le pousse à chercher à dire, voilà, et qui sont analysables comme un moment d'émotion susceptible d'entretenir un espoir, une espérance. C'est-à-dire qu'on peut dire aussi bien que tant qu'on est bien défendu dans sa propre personnalité, en fait, on n'espère pas grand-chose, en réalité, de la vie. Pour espérer, il faut qu'il y ait des accidents. Voilà ce que je suis en train de dire. Ça ne va pas de soi. Mais je voudrais petit à petit le justifier. Ce que je vous dis là, je peux le dire dans l'autre sens. En réciproque, à terme, je voudrais vous proposer de penser, donc en réciproque, comme désespérante, parce que bouchée, fermée, enclose, fixée, Je voudrais vous proposer de penser comme désespérante parce que boucher la situation d'un sujet comblé de signification alentour. Voilà. Je pense que nous en sommes assez là ces temps-ci. Nous sommes comblés de signification alentour, c'est-à-dire, on pourrait dire ça dans un langage beaucoup plus ordinaire, tous les mots qui passent par nos bouches sont des mots qui ont été proposés autour de nous par quelque chose qui s'appelle les médias. Voilà. Et en fait, on ne parle pas. On communique avec ça. Voilà. Nos êtres au monde sont défendus dans cette situation-là et on n'en sort pas. Il faut en sortir. Voilà. Enfermés dans le langage tout fait des médias, en réalité, nous sommes dans une situation désespérante et désespérée. Voilà. Et c'est pourquoi l'accident, enfin, une certaine sorte d'accident, qui serait articulable à ce que j'appelle sentiment, émotion, etc., qu'il faudra que je précise, peut être considéré comme mieux. Voilà. Bon, j'ai fini avec les trois remarques introductives. Ça fait long pour une introduction. Hein. Donc je vais, évidemment, ça va de nouveau pas tenir. Bon. Alors, j'en viens au sujet du jour. Je reviens à la lecture de Paul. Donc j'avais défini, il y a plusieurs séances, vous vous souvenez, ce mot grec, l'atlipsis, traduit par la tribulation, ou qui est, en fait, on pourrait, en passant par saint Augustin, enfin, je ne veux pas refaire tout le séminaire, sinon la mise en situation d'urgence, hein, toute l'expérience qui conduit et qui consiste dans l'urgence. L'atlipsis, je garde le mot grec, difficile à traduire. Cette expérience-là, en tout cas, ne semble pas d'abord modifiée à grande échelle. J'avais tenté de vous le dire en parlant du caractère non synchronique de cette expérience, c'est-à-dire chacun tour à tour peut être touché par l'expérience de l'urgence, mais pas tous en même temps. Hein. J'avais montré ça. Enfin, il suffit de lire, là. Chez Paul, ça n'est pas une expérience synchronique. Ça n'arrive pas à tout le monde en même temps. Et donc, au fond, ça commence par pas changer grand-chose à l'inertie globale du monde. Le monde continue sur sa tendance majeure et le converti, plus ou moins isolé, même plutôt isolé, n'en est pas sauf du monde. Il continue à devoir y vivre avec les autres. Il n'y est pas sauf pour la seule raison qu'il peut désormais y être comme non. Tout de même, la foi paulinienne implique pour l'être au monde une temporalité singulière, et je voudrais ce soir vous dire en quoi. C'est-à-dire le sujet qui a fait l'expérience de l'urgence ne se trouve pas ipso facto dans un autre monde, il est dans le même monde, mais comme non, et ça induit une certaine expérience de la temporalité qui n'est pas l'expérience dominante de la temporalité. Je voudrais vous montrer ça maintenant. Quiconque s'est trouvé converti ne considère plus simplement le monde selon les catégories qui en courent. Il ne valide plus sans réserve ces catégories puisqu'il les éprouve comme non. Il est extérieurement dans le même ordre de mœurs, mais il est intérieurement ouvert à et par le vide éthique dont j'ai parlé la fois précédente. En d'autres termes, qui est converti et passé par l'urgence a atteint un état de conscience, le mot et la notion qui ne faisaient pas sens au temps de Platon le font désormais au temps de Paul, le stoïcisme et la conception latine de la persona s'étant fait jour entre-temps, donc on peut utiliser dans un contexte, si vous voulez, historique, ces notions-là. Quiconque est passé par l'urgence a atteint un état de conscience tel qu'il peut user du monde comme n'en usant pas, se sentir, par exemple, ni exactement esclave, ni exactement libre, quoi qu'il soit toujours l'un ou l'autre statutairement, ni essentiellement mariés, ou romains, ou grecs, ou juifs, quoique en termes de mœurs, ils le soient encore, etc., etc. J'ai déjà pris ces exemples qui viennent de Paul dans les séances précédentes. Cela ne veut pas dire, pour rester sur le premier exemple de la série, qu'il lui soit loisible d'être dans les usages du monde autant que de n'y être pas. Non, cela veut dire que dans le temps même où il est dans le coutumier de ses usages, il ne s'y livre pas tout, il n'y est pas tout, il ne s'y trouve pas de manière parfaite ou sans reste. L'être converti par l'urgence revient au monde comme il est, doit bien faire avec le monde comme il est, mais il n'y est plus, comment dire, de plein pied. Quoi. Il y est avec une certaine réserve, il n'y est pas sans reste. Il y va donc pour lui, ou pour elle, hein, bon, pour qui est passé par l'urgence, il y va désormais, pour celui-là ou celle-là, d'un être inadéquat. Et je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà évoqué, c'est cette inadéquation que je pose comme commune. Hein, ce que je pose comme commun, au fond, avec l'histoire de la faiblesse et tout ça, c'est ce qui, le plus commun de l'humanité, c'est d'être inadéquate à la communauté du monde. Voilà. C'est là, évidemment, une situation difficile à penser ontologiquement. Comment un être peut-il être inadéquat à ce qu'il est pourtant aussi, hein? C'est comme non, je suis un être mondain et pourtant je ne suis pas un être mondain tout à fait. Je n'y suis pas sans reste. Hein? Donc je suis et je ne suis pas ce que je suis. Ontologiquement, c'est une proposition bizarre. Voilà. Comment penser cette chose-là? La réponse à cette question ontologique, c'est depuis au moins Aristote, la notion d'existence qui la donne de façon traditionnelle. Existe l'être qui ne se perpétue pas dans son état d'être et qui n'est pas constamment conforme. Voilà. Alors, comment faire droit à ça? Comment faire droit à l'existence? Peut-être que des sociétés suffisantes, gérées, ordonnées avec suffisance, sont précisément des sociétés qui ne font pas droit à l'existence, qui font droit aux êtres comme ils sont, mais pas aux êtres qui existent. Comment faire droit à l'existence? Alors, un gros livre de Claude Romano, que j'ai déjà évoqué, propose de penser cette notion en tenant compte de la leçon des stoïciens, dont, je le signale pour ma part, Paul était un contemporain. On a même parlé, sauf erreur de ma part, d'une correspondance qu'il aurait eue avec Sénèque. Hein. Et alors, c'est très intéressant que le livre de Claude Romano commence, c'est au début du livre en tout cas, par un chapitre étrange, parce que c'est un livre complètement phénoménologique, mais il y a ce chapitre sur les stoïciens, et je trouve ça, ce chapitre, remarquable. En tout cas, je crois que j'ai enfin compris ce que c'était le stoïcisme, du coup. Bon. Donc il propose de penser la notion d'existence en tenant compte de la leçon des stoïciens, c'est-à-dire en étant moins aristotélicien et plus stoïcien. Une philosophie, si vous voulez, qui a recherché ses fondements ailleurs que dans Platon, Aristote, mais là, chez les stoïciens. Il faudrait la considérer non comme un nom susceptible de nommer une propriété ou un attribut de l'être, mais comme un verbe, hein, c'est-à-dire exister. C'est quelque chose qui est justement dans le sens logique du verbe même. Il y a l'idée de quelque chose qui va pas demeurer tel que c'est déjà. Hein, voilà. C'est d'exister qu'il s'agirait donc, avec ce que ce mot seul, le verbe seul, implique d'indéfinition. Hein. Serait à penser ceci. Non pas qu'il advient quelque chose à un être compris comme une substance permanente, mais que ce qui advient, l'événement ou l'accident, fait exister, c'est-à-dire met l'être en existence ou en délai. Voilà. D'autres penseurs, aujourd'hui, comme Isabelle Stingers ou Bruno Latour, qui ne se réfèrent pas ainsi que Claude Romano à la phénoménologie pour soutenir leur thèse, c'est le moins qu'on puisse dire, disent de leur côté que ce qu'il faut considérer, ce sont les conditions qui permettent d'obtenir des positions d'accord. Isabelle Stringer dit ça, en tout cas moi j'étais marqué. Hein. Il faudrait qu'on pense non pas à ce qu'on est déjà et aux propriétés qu'on aurait déjà, par exemple, notamment celle d'exister, mais penser que ce qui compte, c'est ce qui advient, l'exister même, hein, ou l'obtention. En tout cas, il propose ce mot d'obtenir des positions d'accord, toute obtention n'ayant pas de caractère dont les parties concernées puissent connaître les termes au départ. Il faut donc bien qu'advienne une situation. C'est l'advenu de la situation, quelle qu'elle soit, que je voudrais essayer de, je sais pas comment dire ça, de commenter ou de préciser. Alors c'est dans un cadre de même ordre que s'inscrit déjà, je crois, la pensée paulinienne de l'adclipsis. Ce mot, je le répète, je l'ai dit il y a quelques minutes, établit dans une temporalité singulière l'être qu'elle concerne et qui s'obtient par urgence depuis une certaine défaillance, depuis un certain écrasement des catégories mentales en usage alentour. Si j'ai fait l'expérience de l'urgence, si je me suis trouvé pressé dans le monde, ou par le monde, enfin par quelque chose qui m'est arrivé du monde et que je n'attendais pas, c'est une rencontre, etc., hein, un accident. Je me trouve en situation de défaillance à l'égard des catégories mentales en usage alentour, et c'est ça le sentiment d'écrasement que je ressens. Hein. Ce qui institue cette obtention, ce qui fait qu'il y a là, à proprement parler, expérience, alors je parle latin ou grec, perience, ça veut dire, comme apori, c'est le contraire de, ça veut dire absence de limite. Le périance, ça veut dire au contraire limite. Et expérience, littéralement, c'est sortir des limites. Nous sommes en train de méditer plus ou moins difficilement, plus ou moins clairement, ça dépend beaucoup de moi, à propos d'une expérience, au sens que je viens de dire, hein, c'est-à-dire d'une situation, d'un accident qui nous fait sortir des limites dans lesquelles nous nous trouvions avant qu'il nous advienne. Et cette expérience littérale, ou littéralement comprise, l'enjeu, c'est d'en entretenir ensuite la mémoire ou la fidélité, ce qui, pour mieux dire, fait qu'elle est conséquente. Je vais dire les choses autrement. Ce qui entretient ensuite la mémoire de ou la fidélité à cette expérience, ce qui fait qu'elle est conséquente, ce n'est pas, donc je viens à mon affaire de temps, ce n'est pas Chronos, mais Kairos. Alors, son advenu, puis si j'ose dire son assiduité, ne relève pas du chronologique, mais de l'occasionnel. Il faudrait penser moins chronologiquement et plus occasionnellement. Il faudrait penser le temps dans un registre moins chronologique et plus lié, donc difficile à traduire, au kairos, je sais pas, à l'occasionnel. En tout cas, le converti, tel que je le comprends chez Paul, c'est ce qui finalement lui arrive, et c'est ça qui permet de le penser comme désormais existant. C'est-à-dire, il n'est plus chronologique, mais occasionnel. Voilà. Alors, je vais essayer de préciser. Il est arrivé quelque chose qui rompt la persévérance d'un être dans son état, qui rompt la persévérance de cet être pressé dans son état. L'homme pressé avait auparavant le temps pour lui. Il avait auparavant pour lui un temps sans variation d'intensité particulière. Donc nous, bien construits, dans le monde comme il est, nous allons avec un temps qui est sans variation d'intensité particulière. Et nous essayons de penser demain comme aujourd'hui, par conséquent. Chronologique. Voilà. L'homme pressé avait auparavant le temps pour lui, un temps sans variation d'intensité particulière. La régularité de Chronos l'assurait d'une continuité. L'avenir se produirait dans la logique du présent et par conséquent poursuivrait le présent. Mais voilà que désormais, en raison d'une certaine expérience, il ne saurait plus se reposer sur le temps ni compter sur lui. Qui est dans l'urgence ne peut plus compter sur le temps ni se reposer sur le temps. Et c'est ça que j'essaye de formuler plus conceptuellement en disant on n'est plus dans le chronologique mais dans l'occasionnel. On ne peut plus compter sur le temps si vraiment on a fait l'expérience de l'urgence. Voilà. Cela peut vouloir dire, comme dans l'expression banale « je suis pris par une urgence », que celui-là, le sujet qui a fait l'expérience de l'urgence, ne s'en remet plus au lendemain, il n'a plus le temps, il n'a plus confiance dans ce qui vient, ou pour être plus précis, dans ce qui peut venir du monde, comme anticipé lui-même par ses tenants à partir de ce qu'il est déjà. Comment comprendre en général cet être pris dans un laps du temps chronologique ? Je ne sais pas si je suis clair, évidemment je l'espère. Est-ce que ce n'est pas ça qui se passe, le fameux accident dont j'essaye de définir petit à petit les traits, laps du temps, un laps de temps hein, voilà, je vis dans un temps chronologique, aujourd'hui poursuit hier et demain poursuivra aujourd'hui, chronologique. Et je peux anticiper, je peux faire des projets, etc. Et si jamais je fais l'expérience, une rupture dans la chronologie, qui serait peut-être l'expérience de la presse de l'urgence, je suis en fait pris dans un laps du temps chronologique. Comment penser ça ? Voilà. Comment penser l'être pris dans un temps qui n'est plus, qui n'est pas celui de la chronologie ? Alors je vais prendre, pour essayer de penser ça, une comparaison sûrement inattendue et sûrement apparemment sans commune mesure avec la gravité de ce qui semble bien être en question jusqu'à présent avec ce mot d'urgence. Je vais prendre une comparaison tout à fait banale, mais dont je pense qu'elle nous permettra, alors pas cette année, mais plus tard, de trouver dans le monde d'aujourd'hui des endroits, disons ça pour aller vite, où on peut faire quelque chose sans que ça soit énorme à faire pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire, j'essaye de penser des petites choses qu'on peut faire parce que nous sommes petits, chacun d'entre nous. Bon. Donc, je vais prendre une comparaison petite pour essayer de penser l'être pris dans un laps du temps qui n'est plus chronologique. La situation de l'être pris dans un laps du temps chronologique ressemble à ce qui se passe quand on est pris en photo. Voilà ma comparaison tout à fait banale. Toute l'analyse qui vient, je ne vais pas rendre à qui je dois tout ce que je lui dois parce que je n'aurai pas le temps. C'est évidemment Benjamin. Et puis, peut-être je pourrais me permettre, mais je ne vais pas le faire. Enfin, je veux dire, j'ai déjà écrit des choses là-dessus, alors j'y reviens pas, ou seulement de façon très allusive. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est qu'être pris en photo ? C'est faire l'expérience d'un laps du temps. Enfin, je pense qu'on peut dire ça. À partir de la façon dont Benjamin analyse ce qu'on disait prendre la pause, hein, c'est-à-dire comment est-ce que en tout cas autrefois quand on était pris en photo et qu'il fallait un long temps de pause, on prenait la pause, c'est-à-dire on se composait un visage. Hein, et d'ailleurs, ça existe toujours. Hein, je te prends en photo, alors je vais avoir un sourire un peu crispé, vous voyez, je prends une pause, je me défends. Je suis en train de défendre l'idée que je me fais de moi, c'est-à-dire la personne que je suis, contre quelque chose qui arrive et qui va me prendre. Voilà, comme on dit couramment. L'être pris en photo est un être qui a, dont la défense, par le fait même de la photo, a été mise en défaut. Voilà. C'est intéressant à penser, je pense. Cette petite chose si banale, je pense que là, j'ouvre une parenthèse, enfin, c'est, les selfies, hein, c'est une façon de se, comment dire, de se défendre contre ça, c'est-à-dire de s'habituer, le distraire, le peut aussi, phrase de Benjamin, c'est-à-dire à force de répéter l'expérience de la prise de soi en vue, y compris par soi-même dans le selfie, j'essaye de me défendre contre le laps du temps. Eh bien, je ne devrais pas. Voilà. Voilà, c'est pour dire les choses. Je m'apprête donc à vous suggérer que on pourrait penser, grâce à cette comparaison, la dimension archi-décisive de ce qui s'est joué et se joue encore à partir du moment où l'opération des caméras et autres appareils d'enregistrement est devenue possible. Bref, c'est pas sans lien tout ça, je pense, avec l'expérience ou non de l'urgence aujourd'hui. La façon dont nous nous conduisons à l'égard de nos prises de vue, de nos prises de nous en vue, n'est pas, à mon avis, sans lien. Il faudrait réfléchir à ça avec la situation d'urgence dans laquelle nous acceptons de nous trouver ou pas. Voilà. En tout cas, l'advenue écrasante de l'urgence est liée chez Paul à un moment décisif que la tradition chrétienne a nommé révélation. Bon, le vocabulaire qui est également photographique. Moïse est supposé avoir lui aussi connu un tel moment. Alors Paul, l'urgence pour Paul, elle s'est manifestée sur le chemin de Damas, hein, l'expérience d'une révélation. C'est le mot qui a été conservé pour parler de ça. Moïse est supposé avoir lui aussi connu un tel moment. C'est une révélation et non pas un dévoilement. Alors c'est à Derrida que je dois cette distinction entre la révélation et le dévoilement. Révéler, littéralement, c'est remettre le voile. Hein, donc c'est une révélation. Donc, si vous remettez le voile, c'est qu'il a été ôté à un moment donné. Mais il revient. Le dévoilement, ça serait l'absence du voile. Alors l'expérience de l'urgence par Paul ou par Moïse est pensée traditionnellement comme le don dont on dit qu'il convient. C'est pas dévoilement, la divinité, c'est pas dévoiler à l'humain, mais révéler. Bon. Donc, méditons sur tout ça, l'expérience d'une révélation, c'est-à-dire que ce qui advient soudainement ne dure pas, ou se voile, se révèle aussitôt qu'apparu, ne demeurant plus que sous la forme d'une image trace dans la boîte noire qu'est l'esprit de celui à qui c'est advenu. Image qui étonne celui qu'elle concerne. Hein. Donc, il m'est arrivé quelque chose... Et ça demeure en moi comme une révélation. Voilà. À quoi je suis fidèle, mais ça demeure en moi comme une révélation qui ne cesse de m'étonner. Voilà. De quoi s'agit-il finalement ? Eh bien, nous venons de le voir, d'un éclair, d'une fulgurance lumineuse, d'un laps de temps, d'un éclair, d'une fulgurance lumineuse dont l'opération est mémorable, en ce sens qu'elle fait date, sans être jamais daté, au sens où cette expression « daté » veut dire « passé de mode, inactuel ou périmé ». Donc, la question est l'expérience de l'urgence et la mémoire, la fidélité à l'expérience de l'urgence. On peut penser cette fidélité comme étant liée au fait que le moment, l'accident auquel j'essaye de penser est une révélation, c'est-à-dire quelque chose qui demeure dans la boîte noire de l'esprit humain, mémorable, jamais daté, jamais passé, jamais inactuel, jamais périmé. Donc c'est peut-être ça, la temporalité des occasions, à la différence du chronologique. C'est que l'occasion, c'est quelque chose qui ne s'inscrit pas dans la continuité prévisionnelle d'un temps. Il y a une soudaineté, une fulgurance, une imprévisibilité. Voilà. il m'arrive quelque chose que je n'avais pas anticipé. Si je l'avais anticipé, ça serait chronologique. Il m'arrive quelque chose, c'est une rencontre, elle est mémorable, c'est-à-dire elle demeure en moi et elle est toujours là en moi avec le même étonnement pour moi. Toujours là, elle ne passe pas, on n'est pas dans le temps. Ouais. Donc c'est à l'occasion de l'événement, l'accident dont j'essaie de parler, se lie du verbe lier une espèce de permanence. Et le paradoxe, c'est que cette permanence qui va entretenir la possibilité d'exister, hein, de sortir des défenses, etc. Alors tout ce propos, même si je viens de faire référence à Moïse, je le veux laïque. J'entends nommer non pas divin, qui est un nom encore pour figurer, mais réel, moment dans l'instance du réel, ce qui fend le sujet dans la presse même de l'urgence. Je vais parler de ça maintenant, le réel. C'est-à-dire le sujet chronologiquement établi, le sujet bien construit dans le monde, etc., il n'est pas, il ne lui arrive rien de réel. Voilà. Et un jour, quelque chose advient qui met le sujet au réel, plus au symbolique, etc., mais au réel. Mais ça ne peut se faire sans, je viens d'utiliser cette expression que je n'avais encore pas mis dans la réflexion, ça ne peut se produire sans que le sujet soit fendu. Voilà. La révélation fend le sujet. L'occasion fend le sujet. Voilà. Bien construit, etc. Donc, je vais appeler réel ce qui fend le sujet dans la presse de l'urgence et nourrit ensuite, par mémoire et fidélité, l'attitude de ce supposé sujet. Autrement dit, ce à quoi je pense pour traduire la notion de révélation, c'est à ces moments où du réel nous saute une fois pour toutes, irrémédiablement, aux yeux. Ça ne s'explique pas, mais ça se commente. Alors ça, c'est une distinction qui est vieille dans mon travail, qui est vieille pour moi, entre expliquer et commenter. Ça vient, j'ai pas le temps de raconter, parce que sinon je suis déjà trop long, mais d'une discussion qui avait été, il y a des traces textuelles de ça, construite entre Michel Foucault et Jacques Derrida, quand j'étais jeune, très jeune, et que j'ai pas oublié, qui discutait sur le fait qu'il y a deux mots chez Descartes qui sont éventuellement traduits par de la même manière, ratio et mens. Et bon, la ratio, c'est le mot latin qui traduit logos, la logique, etc., que je mets dans l'explication. Expliquer quelque chose, c'est en avoir la raison, en donner la raison ou la logique. Et le commentaire, vous avez le mens latin, même racine que mémoire, que image. Hein, le commentaire, c'est on parle de quelque chose, non pas en disant la logique, parce qu'on n'est pas dans la situation de le faire, mais avec quelque chose qui est de l'ordre de la fidélité. Hein. Le commentaire de quelque chose, c'est « je me souviens ». Voilà. Et je décris, je parle de mon souvenir, et non pas de l'explication, le dépliement de ce dont je parle. Donc, je pense, pour traduire la notion de révélation, à des moments où du réel nous saute une fois pour toutes irrémédiablement aux yeux, ça ne s'explique pas, mais ça se commente au sens que je viens d'essayer de vous dire rapidement. Oh là là. Suivant un cheminement différent, c'est formellement le genre de question que je me posais déjà dans mon livre « Du commun », auquel je renvoie de façon tout à fait immodeste à l'instant. Je peux même vous donner la référence, page 66-67, quand je me demandais pourquoi, dans ce qu'il est convenu d'appeler art et technique, le symbolique primait si bien sur le réel que les humains s'intéressent moins à ce qu'ils font comme c'est, à leurs faits et gestes comme ils sont réellement, qu'à la signification, je pourrais dire aujourd'hui, à la valorisation de ce qu'ils font. peut-être que c'est ça qui fait que le monde est en état d'urgence, même si nous ne le sentons pas, même si nous n'en faisons pas l'expérience, c'est que nous sommes, je veux dire simplement, à l'heure qu'il est, trop dans le symbolique et pas assez dans le réel. Voilà. Et ça fait longtemps que je me pose cette question. L'homme chronologique, il est comme ça, imbu du sens de ce qu'il fait, et justifiant son faire, F-A-I-R-E, par nombre de raisons. L'homme chronologique ne manque pas de raisons pour justifier ce qu'il fait. Voilà. Et peut-être que l'homme dont nous cherchons à définir le faire qui résulte d'un laps de temps chronologique, d'une rencontre, d'un accident, enfin, etc., etc., cet homme-là, il manque des raisons pour justifier ce qu'il fait. Parce que ce qui va motiver son faire, c'est une mémoire et non pas une logique. Voilà. Pensant que ce qu'il fait ne peut pas ne pas avoir de signification, au contraire, l'homme bien dans le monde manque à être saisi par le réel. Alors je ne sais pas, j'ai encore beaucoup de choses qui sont sous mes yeux et je me demande si je ne ferais pas mieux d'aller tout de suite à la fin, mais alors il va manquer, il faudra que je bricole la séance prochaine autrement. Mais vu l'heure, je vais conclure cette séance. Je voulais faire un détour par quelque chose que je vais juste dire, mais pas être capable de justifier faute de temps. Qu'est-ce que faire dans l'urgence? Qu'est-ce que faire à l'occasion? Par conséquent, si tout mon raisonnement tient à peu près, qu'est-ce que faire en suivant les occasions et non pas les logiques symboliques, hein? J'aurais voulu vous dire que, en tout cas, selon le chemin de méditation que je vais pas avoir le temps de justifier, et ça aussi c'était une proposition qui était dans mon livre du commun, ça pouvait se penser en se référant à quelque chose que j'ai trouvé chez Jean-Jacques Rousseau et que je formulerai aujourd'hui avec cette expression « faire passionnément ». Voilà. Faire à l'occasion, faire passionnément. J'aurais voulu être capable d'avoir le temps, si j'ose dire, d'articuler ces deux propositions. Hein. Faire passionnément, c'est-à-dire, c'est un paradoxe, parce que faire c'est actif et passionnément c'est passif. Voilà. Ni actif ni passif, ou plutôt les deux, faire passionnément. Donc je pense que le faire dans la chronologie du faire, ça n'est pas un faire passionnément. Et c'est une partie du problème, que ce que nous faisons, nous autres, les bien construits dans le monde, nous le faisons sans passion. Et qu'une certaine déconstruction ouvre peut-être la voie à un faire qui n'est pas chronologiquement ordonné, hein, donc qui n'est pas prévu, qui n'est pas anticipé, etc., qui se fait peut-être au jour le jour. Ça, j'y reviendrai lors de la prochaine séance, je donnerai des exemples, mais qui se fait passionnément. Voilà. Donc je peux dire par réciproque, ce qui fait que le monde est en état d'urgence, quand bien même la plupart d'entre nous n'en font pas l'expérience, mais quelques-uns quand même si font l'expérience de l'urgence, ce qui peut peut-être conduire le monde dans l'urgence objective, si vous voulez, où il se trouve, c'est un certain mode du faire qui donne au symbolique et pas au réel la puissance d'ordre, voilà, et qui nous conduit, nous autres, quand nous faisons, à ne pas faire passionnément, mais à faire sur ordre, ou sur projet, enfin ça dépend de quel côté on se situe, enfin bon, on peut développer dans la discussion. Je passe donc, j'ai au moins une page de notes que je vous épargne, bien que J'étais assez content des formules que j'y avais trouvées, mais tant pis. Parce que je voudrais, pour conclure, vous lire et ça, plusieurs pages d'un texte de Victor Segalen pour faire comprendre ce dont il peut être question avec ce faire passionnément, ce faire dans l'urgence, et en même temps, c'est advenu de ce que j'ai appelé, j'espère que c'était pas trop obscur, réel plutôt que symbolique. Et comme pour que... En fait, c'est le dernier paragraphe qui compte, mais pour que l'enjeu de ce dernier paragraphe vous apparaisse, il faut que je prenne le texte bien, bien auparavant. Et donc, je vais vous lire 4 pages de Victor Segalen. Je rappelle que j'avais mis en exergue de tout ce séminaire une phrase de Segalen. Hein. Donc, c'est tiré de L'Équipé, qui a aussi été publié un temps sous le titre « Voyage au pays du réel », avec un grand R. Alors, Victor Segalen se trouve en Asie, sur une embarcation plutôt, qui s'appelle un Sao. Et il va lui être confié le pilotage, la gouverne, le gouvernail, hein, le pilotage, la gouverne, le gouvernement de ce bateau, de cette embarcation. Hein. Et ils vont rencontrer des rapides et advienne que pourra, voici le texte. Le Sao, son nom l'indique, balaye le fleuve. Alors le Sao, c'est le nom de l'embarcation. Le Sao, son nom l'indique, balaye le fleuve et c'est un admirable instrument. Donc ça commence comme ça. C'est-à-dire, l'Européen... éduqué à la culture gréco-latine, hein, je rappelle la première séance, là. Bon. Prend le bateau, l'embarcation, comme un instrument, hein, et le pilotage comme un moyen d'instrumenter l'existence. Bon. Enfin, c'est mon commentaire, évidemment. Le Sao, son nom l'indique, balaye le fleuve, et c'est un admirable instrument. La traduction « godille » est fausse, dit Segalen, puisque le Sao n'aide pas à la propulsion, mais gouverne. Le mot « gouvernail » ou « aviron de queue » est insuffisant, car il est plus fort, plus équilibré par le caillou ficelé près du manche, plus long, plus énergique, plus sensible, enfin, que cet instrument. Je suis donc debout au Sao. Je sens bien que dès lors, je ne vais rien perdre de tous les mouvements frémissants du fleuve. La peau du fleuve ne frétillera point, le fleuve sous le ventre du Wupan ne se musclera point, que je n'ai senti avant lui, au frisli léger de sa peau, tous les mouvements qu'il va faire. Hein, donc on est dans la situation de l'homme au gouvernail, qui se fait fort d'anticiper avant les mouvements du fleuve. D'un seul coup de Sao, dont le bois vibre, j'ai donc mis le Wupan en plein courant, le bateau, le Wupan, l'embarcation. Il la met en plein courant, gouvernant à l'aise. Bon. Le premier rapide m'enlève, me dépasse et me jette dans les eaux courantes, filant trop droit vers le but que je connais, les roches découvertes. Donc, ça commence à mal se passer. Je sais qu'il faut tourner en grand sur bâbord. Donc, le Sao tout à tribord, et je tire sur le manche, dans le bruit de l'eau, dans l'élan qui, m'entraînant à droite, emmène le bateau sur la gauche. Et la pierre continue sa course et menace de me jeter à l'eau, jusqu'au coup dur. Pardon, j'ai mal lu à cause de... La pierre continue sa course et menace de me jeter à l'eau jusqu'au coup dur. C'est l'amarre du Sao qui rappelle et m'avertit que tout effort ne doit pas dépasser sa limite. Alors, là, il se passe quelque chose, il commence à se passer quelque chose, et c'est le bateau que le pilote croyait tenir comme un instrument à sa disposition, qui lui rappelle que tout effort ne doit pas dépasser sa limite. Le bateau semble filer en bonne direction. Sans doute, il faut tenir la composante entre la vitesse du fleuve, marquée par le défilé de la rive, et la vitesse propre du bateau. Il semble que celui-ci gagne sur l'autre et que l'on va gagner sur la pointe. Mais tout d'un coup, tout s'en vient donner dans des vermous, dans des remous, dans les tourbillons non prévus, dans des mouvements d'eau que le pilotage ne m'a jamais appris. Je ne puis interpeller les deux barquiers d'avant. C'est-à-dire les deux Asiatiques qui sont sous son commandement, si j'ose dire. Je ne peux les interpeller. Ils souquent du mouvement régulier de la bonne conscience. Donc, il sent qu'il y a un problème, mais donc l'expérience n'est pas synchronique, hein, mais ses copilotes continuent à ramer comme si de rien n'était. Donc, je ne vous fais pas de dessin sur le rapprochement avec nous dans l'urgence ou pas. Et puis, le remous devient extrême. J'hésite. Je donne des coups de sao sans conviction. Je n'ai pas encore le maniement dans les bras et, contradictoire, il s'annule. J'essaye de me souvenir de la leçon. Il faut bien pourtant doubler ce rocher là-bas. Il faut bien pourtant doubler ce rocher là-bas. Il faut bien qu'on continue à exister. Si je n'y atteins, si le fleuve qui me porte droit sur lui est plus vif que moi, point de suspension, nous sommes dessus, moi, le bateau, le brûlé et les deux mariniers. C'est arrivé plus vite que prévu. Ceux-là, pleins de confiance en le maître européen, nagent toujours sans hésitation. Le fleuve est plat en apparence, mais la rive défile terriblement vite. Je me souviens qu'il faut d'abord de la vitesse pour bien gouverner. Je crie « vite !» et les deux bons bougres se cabrent sous l'ordre et font crisser leur tollé. Ça va déjà mieux. Mais non, voilà les remous qui me prennent. Une gifle d'eau sur l'avant me renvoie vers la droite et dans le plein tourbillon. La vitesse ne sert plus de rien et les deux autres qui forcent toujours comme des fous ou des gens de bonne foi. Ils n'ont toujours rien vu venir. Les autres. Le bateau fait un tête-à-queue et le panorama brouillé des gorges rocheuses a changé autour de moi, semble-t-il. J'ai senti en pleine figure la gifle de l'eau sur la joue du bateau. Et la valse ridicule devient un vertige des yeux et de la tête où passe le regret cuisant d'avoir tenté ce que je ne pouvais faire. C'est-à-dire, il a trop tenté. Hein, et le réel est en train de lui dire ça va mal finir. Bon. C'est la danse bien ivre des scrupules et des doutes. Il fallait manœuvrer comme une jonque. Sois prudent, il valait mieux ne pas passer du tout. Me voilà bien noyé d'avance. J'imagine complaisamment l'état d'esprit du noyé. Donc ils sont en train d'aller à la perte. On revoit toute sa vie. Des choses étonnantes. Mais non, je ne serai pas noyé. Je vais me concasser la tête sur la roche qui m'arrive dessus à 10 nœuds, droit devant. Puis de nouveau, le tour est complet. Alors si pourtant on pouvait passer. Alors là, l'espoir. Et si pourtant on pouvait passer. Les gens sur l'avant sont infatigables et ne bronchent pas. Ils ont confiance. Ou bien ils ne voient rien. Si l'on passait. Je suis déjà dans les remous des roches, l'avant-droit, sur le caillou, à 10 longueurs de la coupure, très loin sur la gauche. Alors, en dernier espoir, et tout à gauche, en tirant sur le sao, sous-entendu peut-être non. Je ne sais comment je me suis rué, le poussant de toutes mes forces, les pieds nus sur le bordé clapotant. Je ne sais comment. J'ai donné un grand coup de sao qui a fait venir en grand sur la droite et tout d'un coup, très sûr de moi, j'ai vu le bateau filer à deux doigts des pierres, sauter dans une volute, se recevoir en vibrant et nager enfin en eau profonde, ayant passé, sans savoir lui-même comment, par un chenal intermédiaire, une passe non reconnue. Les hommes ne se sont pas retournés. Je les arrête. Ils s'épongent dans un repos calme. Ils ne savent pas combien nous l'avons échappé belle. Celui-là seul qui gît encore au fond du bateau pourrait en témoigner s'il avait vu. Alors je vais vous lire le paragraphe conclusif dans une seconde. Juste faire remarquer, moi c'est facile parce que j'ai le texte sous les yeux et je ne suis pas sûr de lire très très, très bien. Mais ça se précipite, ça va être la catastrophe. Soit ils vont se noyer, soit ils vont se fracasser sur une roche, mais de toute façon ça va mal finir. Et puis tout d'un coup, je ne sais comment, ça passe en une phrase. Hein. L'issue, je ne sais pas qui a trouvé la route, il ne sait pas si c'est lui ou si c'est le bateau, mais c'est passé. Voilà. Ils ressortent de l'aventure, c'est passé. Et je vous ai lu les deux pages avant pour que vous entendiez bien la différence de tempo hein, entre le long temps pendant lequel il prévoit ça va aller de mal en pis. D'abord, il est sûr de lui, prévoyant ce qu'il faut faire, etc. Et puis, pronostiquant la catastrophe. Et puis, bon, je crois bien qu'il y a alors un dernier espoir. Et tout à gauche, en tirant sur le sao, non, je ne sais comment. Je me suis rué, le poussant de toutes mes forces. Je ne sais comment. Voilà. Bon. Alors, le paragraphe pour terminer. Donc, ça y est, c'est passé. Mais je reste un long temps sans pouvoir me l'expliquer à moi-même. Pourquoi, au lieu de lutter jusqu'au bout selon la leçon apprise, j'ai tout d'un coup et si fort à propos renversé la barre ? Paradoxalement, par bravade, non. Je n'ai pas mieux à me répondre que par instinct. À ce moment, digne de l'illumination légendaire du noyer, j'ai compris, entre guillemets, que réciter l'appris était la mort. Voilà. Si on est sauf, c'est parce que, je ne sais comment, à un moment donné, j'ai compris que réciter l'appris était la mort, qu'il fallait brusquer, inventer, même au prix d'une autre mort. Le passage était invisible, mais je jure avoir pressenti quelque chose, peut-être au mouvement profond du Sao, peut-être à un frémissement incalculable de l'eau. J'ai pressenti qu'il y avait mieux et plus inconnu à faire. Voilà. Voici, pris sur le vif, la juxtaposition des deux contraires. L'imaginer ou l'enseigner, d'un côté, et la pierre d'achoppement ou de naufrage, le réel. La pierre d'achoppement ou de naufrage, le réel. Qui n'est pas l'imaginer ou l'enseigner. Entre les deux, non commandé, non ordonné, la bête brute de l'instinct sauveteur, souple comme l'eau caressante, avisée comme un paysan, matois comme un chat sorti on ne sait de quelle cave et de quel souterrain, vient interposer son à-propos et son énigme. La leçon est bonne. Voilà. Voici pris sur le vif la juxtaposition des deux contraires, l'imaginer ou l'enseigner, et de l'autre côté, la pierre d'achoppement ou de naufrage, le réel. Alors c'est un peu ça. Enfin, en tout cas, la lecture de ce livre est pour beaucoup dans la conception de ce séminaire. C'est pour ça que j'avais envie d'en lire un passage. Je pense que l'opposition que formule en conclusion de ce moment de sauvetage Victor Segalen entre l'imaginer et le réel correspondrait dans mon exposé de ce soir à la distinction entre le chronologique et l'occasionnel, chronos et kairos. Et donc je m'arrête là-dessus pour qu'on puisse discuter, même s'il y a toute une partie de l'exposé que j'avais envisagé qui donc n'aura pas lieu. Je m'arrête là-dessus, oui, pour qu'on ait le temps un peu de discuter. Oui, si ce que je voulais dire, c'est que bon, comme toujours, on peut prendre le raisonnement par la réciproque. Hein. Réciproquement, ce qui conduit à la catastrophe de l'écrasement sur les rochers, etc., ou ce qui aurait mené à l'écrasement, c'est précisément que le pilote, en l'occurrence, demeure dans la logique, entre guillemets, de l'imaginer ou de l'enseigner. C'est parce qu'il dit, entre guillemets, par instinct, quelque chose est arrivé qui l'a sorti de sa propre position d'homme chronologique. Voilà. Bon. Donc ça serait la condition, si vous voulez, pour penser la séance prochaine, un petit peu plus précisément, le faire dans l'urgence. Voilà. Bon. Il reste un petit peu de temps pour discuter comme ça. Et la partie manquante, vous la lirez quand je déposerai les notes du séminaire sur mon site. Voilà. Alors, il faut me dire, parce que moi, j'arrive pas à lire. S'il y a des...
Pas encore.
Est-ce que quelqu'un peut mettre la lumière? Parce que je vois pas très bien.
Mais qui a un parallèle que je fais peut-être probablement trop rapide, et sans méthode au design, enfin de la répercussion, c'est-à-dire qu'il y a tout un courant à partir des 50, 60, 70 d'un design qui s'est voulu être dans le réel. Il y a le titre de Victor Papanek. Mais il y a aussi, de seconde main, j'ai lu une phrase de Bruno Latour faisant la promotion du terrain pour un design anthropologique. Et ce que je comprends, c'est le réel dont tu parles, c'est pas ce réel-là du terrain.
Je pense que tu as compris, ouais. Oui. Le réel dont je parle, c'est pas le réel dont il parle. Enfin, le mot réel est invoqué pour désigner quelque chose qui rentre dans l'ordre. Que ce soir, j'appelle chronologique. Voilà. Le projet, l'anticipation. Voilà. En fait, ce qui nous manque peut-être, c'est de pouvoir faire quelque chose de non anticipé. En tout cas, bon, s'il faut rester dans le vocabulaire qui est volontiers utilisé dans les milieux du design, ce que je cherche à... Je me libère de ce milieu-là pour les quelques séances au moins qui sont là. C'est-à-dire faire quelque chose qui ne soit pas projeté. Voilà. Et peut-être que l'économie du faire, du construire, etc., archi-dominante dans le monde aujourd'hui et qui pourrait faire qu'il soit dans l'urgence... c'est que, précisément, on ne peut plus rien faire qui ne soit anticipé. Voilà. On ne pourrait plus rien faire qui ne soit anticipé. Dans ce cas-là, j'ai lâché l'expression à un moment ou l'autre, je pense, de la soirée, la situation est bouchée. Voilà. Et pour qu'elle se débouche, il faut que puissent venir à être faites des choses qui n'auront pas été anticipées. Voilà ce que je pense. C'est la condition générale. Après, savoir comment traduire cette condition générale dans des situations particulières, ben c'est ça la question de qu'est-ce que faire. Voilà. Mais en tout cas, le réel, je suis à peu près sûr dans le texte de Ségalène et dans le sens que j'essaye de lui donner ce soir, c'est pas ce que dans nombre de textes on appelle la réalité. Voilà. Qui en fait est parfaitement symbolique ou symbolisé. Alors que le réel dont il parle, c'est quelque chose qui n'est pas dans le symbolique, en tout cas de l'européen, qu'il est.
Et même dans certains propos ou tendances du design auquel je pense, la convocation du réel serait une façon d'anticiper mieux.
Convoquer le réel, c'est une expression contradictoire. En tout cas, pour le sens que je souhaite donner au mot, ou que, à mon avis, Ségalène lui donnait. Voilà. On ne peut pas convoquer le réel. C'est lui qui vous convoque. Voilà. Si jamais le mot convocation convient. C'est ça l'advenu dans mon langage depuis 4 ou 5 séances. Voilà. Il advient quelque chose. Voilà. Ben,
est-ce que avec le, est-ce que à l'être avec dont tu parlais pour commencer, répond ou répondrait un faire avec le réel comme altérité?
Ah, là tu as l'art de me mettre.
Peut-être pas du tout. Hein.
En tout cas, spontanément, à ta remarque ou ta question, je dirais que je n'avais pas pensé... L'être avec dont je parlais au début de la séance, c'était l'être avec les autres, qu'on appelle les semblables, qui ne sont pas des semblables en réalité, mais voilà, les pareils, les semblables, être avec les autres humains. En tout cas, en début de séance, c'est à ça que je pensais. Être avec le réel...
Faire
avec... Le réel.
Faire passionnément, en fait. Bon, ça va peut-être te conduire à développer aussi un peu.
Oui, mais avant de développer, je dis spontanément, peut-être que je regretterai et que je serai obligé de faire une rectification dans 15 jours, je ne sais pas. Mais spontanément, je ne dirais pas faire avec le réel, mais faire depuis le réel. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire avec. Les autres, depuis le réel. Ça, c'est une autre chose encore. Voilà. Mais je pense que le faire passionnément, si tu veux que j'en parle, je pense qu'il... Enfin, sa provenance, si ce mot convient, c'est une certaine expérience du réel qui ne s'anticipe pas, qui advient... Et qui est mémorable. C'est-à-dire, c'est parce que je me souviens de quelque chose que je peux faire réellement quelque chose, et pas et que je peux mettre dans le monde des choses, je dirais, des choses réelles, et pas des symboles de mon activité. Ce que les humains, enfin en tout cas. Dans la part de monde au nom de laquelle, dans laquelle je me situe, comme j'ai essayé de le dire lors de la première séance, je pense que ce que les humains mettent au monde, ce sont des symboles de leur propre activité. C'est-à-dire, ils se mirent dans leurs propres objets. Peut-être que justement, on peut trouver des cas occasionnels. Ce ne sont que des occasions. Mais des cas dans lesquels quelque chose a été mis au monde qui n'est pas le symbole d'une activité humaine, mais qui est bien, dans ce cas-là, le faire avec, qui serait bien une, je sais pas comment dire ça, quelque chose qui s'est fait, oui, avec, donc dans ce cas-là, ça convient, qui est passé, par une espèce de collaboration, j'aime pas ce mot, j'en trouve pas d'autre pour le moment, entre un sujet, un supposé sujet, qui est probablement troublé, qui sait ses failles, enfin, qui sait ses failles, mais qui sait qu'il en a, hein, qui a l'expérience de ses propres failles, ce sujet qui a l'expérience de ses propres failles, la mémoire de ses propres failles, qui ne les a pas oubliées, fait quelque chose... avec quelque chose, voilà, qui n'est pas un sujet, et de cette rencontre entre les deux advient quelque chose qui n'est pas symbolique, mais qui est réel. Voilà. Je pense qu'on trouve des exemples de ça dans ce qui s'appelle l'art. Alors, c'est pas ça qui va nous nourrir, hein, là, on est bien d'accord, mais peut-être que redéfinir la situation des opérations artistiques pourrait nous aider à comprendre quelque chose d'un peu critique dans l'économie de nos opérations mondaines les plus installées. Je ne sais pas si je parle clairement.
distance. En fait, Yves Citon voulait poser une question, mais il a des problèmes de micro, donc il est en train de l'écrire.
Il n'a pas de micro ?
Voilà, ça y est. Je lis la question. C'est ça, il a un problème de micro.
D'accord.
Il a écrit « Le texte de Ségalène décrit une scène d'improvisation, entre guillemets. Ce qui n'est pas prévu mais provisionné, c'est de l'ordre du pratein, me semble-t-il, du faire agir. C'est un peu dangereux de se fier à nos capacités d'improvisation. Surtout, les capacités d'improvisation se construisent, c'est une forme de poiesis. N'y a-t-il pas une chronologie de l'apprentissage ou de l'entraînement pour acquérir une meilleure capacité à improviser ? Au moment de l'occasion, accident, faillite. Que pouvons-nous faire, construire, dans le temps chronos, pour pouvoir mieux faire agir dans l'urgence du kairos ?
Je ne sais pas, je parle à Yves quand même, même si nous manque les voix. Je ne sais pas, en tout cas, en écoutant la question comme j'ai pu à l'instant... Je me suis dit que peut-être à un moment tu pensais à l'apprentissage de l'improvisation dans le jazz, par exemple, qui n'est peut-être pas quelque chose de spontané. Les musiciens apprennent à improviser. Bon. Il faudra revenir sur cette affaire et sur ce mot. Pour ma part, d'abord, si jamais j'ai dit ce mot ou si je le reprends, je pense... Parce que c'est tout ça que j'ai en tête, que c'est un mot qui se trouve pour nommer les tableaux que Kandinsky faisait juste avant la Première Guerre mondiale. Donc on pourrait dire dans une situation qui n'était pas complètement dénuée de toute occasion d'urgence. Et il fait deux sortes de tableaux, certains qu'il appelle composition et d'autres qu'il appelle improvisation. Et il explique ce que ça veut dire pour lui. Et je pense qu'il faut... Moi, je voudrais revenir sur toute cette pensée-là, à laquelle je trouve on ne donne pas la place qu'elle mérite. Voilà. Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il disait improviser Et je pense que ce qu'il voulait dire, c'était justement faire des tableaux, alors à la fois dans l'urgence générale, mais en même temps, une certaine manière de faire qui n'implique pas d'anticiper et qui n'est pas par conséquent une action, mais bien la fabrication d'un tableau. C'est une grande question pour moi qui a l'air d'être déconnecté de nos urgences contemporaines, et pourtant, voilà. Comment se fait-il que quelqu'un d'assez lucide comme lui, sur la situation humaine générale, dans l'avant-guerre de 14, ne trouve rien de plus urgent à faire que des tableaux qu'il nomme improvisation ? Alors ça a l'air d'être une question déconnectée de nos urgences, et je pense que penser ça, puisqu'on est là pour ça, qu'on prend un peu de temps pour essayer de réfléchir à l'abri du langage qui nous entoure et qui nous remplit d'avance, je pense que ça vaut le coup d'essayer de réfléchir ça, de réfléchir à ça. C'est-à-dire que peut-être il y a plus d'urgence qu'il ne semble à faire des choses qui n'ont pas l'air d'être urgentes parce que ce ne sont pas à proprement parler des actions. Je ne sais pas si j'ai répondu à Yves, que je ne vois pas et que je n'entends pas.
Et qui a écrit, pendant que vous parliez, oui, c'est moi qui ai introduit le mot, donc improvisation, en pensant bien au jazz, et qui vient de répondre, super, merci.
D'accord.
Point d'exclamation.
D'accord.
Mais j'ai une question à propos de ça et dans le propos du jazz. Parce qu'il y a un mouvement d'improvisation dans le jazz qui s'est opposé au jazz improvisé, qui a été ce qu'on appelait la free music, qui a essayé de défaire les principes de l'improvisation du jazz. C'est-à-dire travailler non plus avec des principes, se défaire des principes. Et je pense à ça parce que ça, tout ce que vous avez dit, tout ce que j'ai entendu, me fait penser à une certaine façon de penser l'anarchisme.
J'ai pas d'objection.
Comment ?
J'ai pas d'objection.
Voilà. Et m'est venu ça en écoutant la question et ce qui a circulé là. Parce que ce mouvement de la free music, il s'est vraiment opposé au jazz.
Je serais plus nuancé, moi.
Non, mais je le dis, je tire à gros traits, ouais. Effectivement. Et en tout cas, il y a eu un moment...
Parce que quelqu'un comme Miles Davis a quand même fait les deux, par exemple.
Pour moi, il n'a jamais fait les deux.
Ah bon, il faudrait qu'on ait une discussion...
Non, pour moi, il n'a jamais fait les deux. Il est sorti de quelque chose, du bebop, par exemple. Pour autant, il n'a pas été s'aventurer au-delà. Alors que je pourrais dire que Albert Ayler y a été.
Oui.
Coleman y a été, mais pour moi, Albert Ayler est un... Ah ouais, quelqu'un qui a vraiment été...
J'ai les disques.
Je pense à ça parce que c'est vraiment plus la même chose,
ouais,
du tout.
Ouais.
Et on appelle ça jazz, mais ça empêche de distinguer quelque chose de fondamental, je trouve.
J'avais lu un livre il y a très très longtemps de Philippe Carle et Jean-Louis Comolli, Free Jazz, Black Power, qui est pour moi une sorte de bible. Et par ailleurs, donc, j'ai quand même un peu écouté cette musique à l'époque. Et moi, je dirais que peut-être le passage au free, c'était aussi la libération de certains instruments qui étaient moins improvisateurs que d'autres, le bassiste, le batteur. Évidemment. En fait, il s'agissait de donner à tous les musiciens, de quelque formation que ce soit, la liberté d'improviser.
C'est voilà. Qui n'était plus gouverné.
Voilà.
C'est quand même ça.
Oui, bien sûr. Mais pour moi, ça serait. Enfin, bon, c'est un problème de musicologie, mais ça serait plus une extension de ce que les boppers avaient commencé à faire exister qu'une rupture. Voilà. L'augmentation d'un principe de liberté.
Après, je pense à des musiciens de ce qu'on appelle le jazz européen, plutôt. Un type comme Evan Barker, par exemple, qui, du coup, là, il n'y a plus aucun modèle afro-américain, par exemple. Et là, pour le coup, on est dans vraiment autre chose. Et ça porte toujours le nom de jazz, mais je trouve que là, il y a une rupture pour moi, en fait.
Je ne sais pas si... Enfin, si le jazz, c'est le sujet, essayer de retomber sur... Mais on parlait de l'improvisation dans le jazz, le hard bop, on parlait de Miles Davis tout à l'heure. Vous avez l'improvisation qui vient à un moment, chacun son tour. Tandis que dans le free jazz, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'urgence. C'est là où je reviens sur ce que vous disiez, sur faire passionnément. Et j'ai l'impression qu'il y a un moment dans le free, en tout cas, il y a aussi... improviser, mais tous en même temps, chacun de son côté, pour faire quelque chose qui essaie potentiellement de devenir collectif, mais pas obligatoirement. Et ça me fait penser à ça, le faire passionnément, parce que c'est pas aussi un moment de se débattre. Se débattre, parfois. Si je peux m'arrêter si je me trompe, mais aussi, ça me fait penser à l'expérience de la catastrophe, aussi, ce que vous dites. Enfin, Paul, c'est une révélation. Sur le moment, il le vit comme... On ne sait pas bien comment il le vit. Enfin, en tout cas, il le vit aveuglément, puisqu'il est aveuglé sur le coup. Si je ne dis pas de bêtises. Il y a ce moment où il dit que, pendant quelques instants, il ne voit plus rien. Ça peut dépenser à la photographie, donc, parmi aussi. Et c'est un moment où ensuite, il agit sans expérience. Il agit sans réfléchir à ce qui s'était passé avant en temps chronologique, mais là, juste sur le moment. D'où faire passionnément, je dis une bêtise ou je dis pas de bêtise quand je dis ça ?
Sur le faire passionnément ?
Ouais.
Non, après, bon, j'ai lâché la formule et chacun peut l'interpréter. Enfin, je vois, d'abord, avant de venir là-dessus, qui est peut-être le fond de votre intervention, je veux dire, si je dois penser l'improvisation, ce qui n'était pas le mot que j'avais... spontanément, mais si je dois y penser, si la question d'Yves en particulier me conduit à y repenser, je pense que mon point de départ, c'est ce que j'ai dit dans ma réponse tout à l'heure, ça ne sera pas bien que je ne sois pas complètement ignorant de questions de l'improvisation dans le jazz, ça ne sera pas ça mon point de départ. Ça sera, je vous l'ai dit, l'arrivée du mot dans le vocabulaire de Kandinsky, disons en 1912-13, voilà. Et donc, mon référent serait plutôt qu'est-ce que ça vient faire dans la peinture, ce truc-là, voilà. Alors que, et là je vais venir petit à petit au fond de votre, je crois, de votre remarque ou de votre question, alors que il est de grande tradition artistique précisément, le peintre n'improvise pas. Le peintre classique qui a la bonne disposition du faire, ce que les textes classiques, Cédric ne me dira pas le contraire, les textes classiques appellent l'économie, hein, qui a la, c'est quand même intéressant. Économie est un concept artistique, peut-être avant d'être un concept économique, c'est au sens d'aujourd'hui. Donc la bonne économie du peindre, du faire, du produire, c'est précisément que le peintre n'improvise pas et que tous ses gestes soient devancés. Alors ça, je le montrerai la prochaine fois, c'est quelque chose que j'ai déjà fait avec le commentaire qui m'avait, qui avait donné lieu à qui était intervenu dans la discussion que j'ai eue une fois avec Bruno Latour, public, la fameuse gravure de Dürer qui définit l'art de peindre. Donc, je pense par extension l'art en général. Art étant entendu non pas au sens postérieur qui viendra qu'au XVIIIe des beaux-arts, mais de la technique. Hein, c'est-à-dire l'art de faire, c'est de rentrer dans une économie, dans une disposition du faire telle que, au fond, il n'y a pas de geste. Il n'y a que des gestes devancés, mais je voudrais faire penser qu'un geste devancé, ce n'est pas un geste. Parce que moi, je rapporte geste à gestation, et que justement, la gestation, ça n'est pas quelque chose qu'un opérateur ou qu'une opératrice devance. C'est quelque chose qui se fait, et qui se fait à deux. L'être qui grossit et la matrice qui porte cet être qui grossit. Ça se fait à deux. Voilà. Et c'est ça, le faire passionnément, c'est se trouver sujet faisant matriciel. Voilà. Si je dois, en quelques mots, définir ce faire passionnément. Voilà. C'est-à-dire... Et ça veut dire, bon, par exemple, si on prend le geste... Alors, je fais la séance la prochaine fois, comme ça, je ne serai pas trop long la prochaine fois. Kandinsky ou Paul Klee, hein, Klee... étant un ami de Kandinsky et l'ayant lu, je pense que c'est lui qui reprend le plus clairement ça dans les années 20. Donc ça, je pourrais essayer de le montrer la prochaine fois. Il s'agit d'avancer des gestes sur un support, par exemple, qui n'ont pas été devancés. C'est-à-dire qui n'ont pas été ordonnés dans les deux sens du mot. C'est-à-dire qui n'ont pas été ordonnés par quelqu'un qui vous donne un ordre, hein, ou par une instance de vous qui vous donne un ordre, et ce n'est pas ordonné au sens où on pourrait dire ce n'est pas bien disposé, quelque chose de... pouvoir avancer des gestes, qui n'ont pas été devancés par un ordre qui n'est pas de l'ordre du geste lui-même. Ça, c'est compliqué. En tout cas, les objets techniques lourds de conséquences qui nous environnent aujourd'hui ne sont pas de cette sorte. Voilà. Si le monde est dans l'urgence, c'est peut-être parce qu'il est plein d'objets dont la présence dans le monde est due à des devancements perpétuels des opérateurs et des opérations, c'est-à-dire à l'absence de gestes. Alors, voilà, ça c'est une position philosophique. Après, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Je pense que c'est ça les questions d'Yves. Plus politiquement, ce séminaire n'a pas pour moi vocation à se substituer à la discussion politique, mais à éventuellement proposer des idées qui peuvent ensuite l'alimenter. Ça, chacun verra bien ce qui se passe. Quoi. Mais en tout cas, bon, je pense ça. Je pense que les techniques qui nous font au fond du mal, qui peut-être mettent le monde en état d'urgence, sont problématiques pour cette raison que elles s'inscrivent dans une économie du devancement permanent.
Ça va être une question vague, mais ces gestes qui sont rarement vraiment des gestes, ou ce faire difficilement ou rarement, donc qui s'opposent au symbolique.
Ils sont ?
Ce qui s'oppose au symbolique, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, le faire s'oppose au symbolique.
Enfin, le faire que je voudrais essayer de soutenir.
Oui, on est d'accord. Ce faire-là, est-ce qu'on peut en parler ou comment on peut en parler ?
Est-ce qu'on peut en parler ? Alors, ouais. Pas d'avance. La réponse logique par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est de dire au moins ça. Mais on ne peut pas en parler d'avance.
Alors, pendant ou après ?
Alors, pendant, je ne sais pas. J'aurais plutôt tendance à penser, c'est un peu ce que j'ai dit en disant ça ne s'explique pas, mais ça se commente. Enfin, tout ça à quoi j'essaie de penser rentre dans le champ, non pas des explications, non moins de l'explicable, mais du commentable. Donc si ça se parle, si ça entre dans du langage, ça serait plutôt après pour moi. Et pas dans n'importe quel langage, pas dans un langage qui va en rendre raison, dans un langage qui va en faire mémoire. Mm-hmm. C'est pas du tout la même chose.
Un petit peu ce que vous avez lu, quoi.
Voilà. Ben, j'avais lu, pour faire polémique, à la deuxième séance, si je me souviens bien, un article du Monde, vous savez, qui parlait du savoir regarder dans les musées. Voilà, vous avez les raisons pour lesquelles j'avais fait de la polémique avec cet article. C'est que il s'agit de substituer à une expérience qui serait le commentaire esthétique l'explication de la chose qui nous a troublés. Voilà. Donc il y a le moment où ça parle, où ça vient à la parole, et il y a le mode dans lequel ça vient à la parole. Donc le moment, si je comprends bien votre question, je dirais, pour moi, c'est plutôt après. Et le mode, c'est pas l'explication.
Mais c'est pas incompatible. Le faire et le... dire le faire.
C'est pas incompatible. Alors après, je pense que quand on pense... Je pense que quand on pense qu'on explique quelque chose, comme ça c'est les logiques dialectiques, on relève la chose dans du langage, c'est-à-dire en fait elle se retrouve dans le langage comme si on perdait rien de la chose elle-même, comme si les choses pouvaient se synthétiser dans les mots. Enfin, ça je ne pense pas ça moi. C'est-à-dire que s'il y a du langage... Il s'adjointe, il s'articule à une expérience, mais il ne la relève pas au sens que Derrida donnait à ce mot quand il voulait traduire l'Aufhebung de Hegel. Ça ne se relève pas dans du langage. Ça ne s'explique pas. Voilà. Ça n'est pas... On ne peut pas en rendre raison. Ça n'est pas rationnel. Voilà. Faire place à quelque chose qui ne s'explique pas, qui n'est pas rationnel, ce n'est pas si facile que ça pour des humains très construits, très intégrés dans le symbolique. Voilà. Parce que justement, l'humain construit, bien intégré dans le symbolique, sa logique, c'est de rendre raison du monde. Voilà. Et peut-être que ça serait bien qu'on se mette à penser que du monde, nous ne sommes pas en situation d'avoir les raisons, de rendre raison. Voilà. Alors, est-ce que je suis en train de dire qu'il faut faire des choses pas raisonnables ou pas rationnelles? Voilà. Dans un certain sens, oui. Voilà.
Je suis en train de penser au rapport entre faire et dire et à la parole qui peut arriver en même temps que quelque chose est montré, ou en même temps que quelque chose est fait. J'ai en tête des films, et en particulier les rapports qu'il y a entre la parole et l'image dans les films de Godard, où dans ce cas-là, on a parfois synchroniquement, se présentent des paroles et des images en même temps. Alors c'est sûrement pas des paroles explicatives, est-ce que c'est des commentaires?
Alors c'est drôle parce que je viens de terminer un article sur Godard. Voilà. C'est drôle. Alors je soutiens dans cet article que justement, je vais être caricatural, mais ce qu'il y a dans le cinéma de Godard, c'est il n'y a pas de relève des images dans le registre du langage chez Godard, que ce soit le langage qui s'entend dans les films ou celui que lui-même tient quand il parle de son cinéma. Donc, pour moi, le cinéma de Godard, c'est un cinéma qui je ne sais pas comment dire ça, qui me va, pour la raison que si je souhaite voir jusqu'au bout un film de Godard, il faut que je me résolve à ne pas le comprendre. Surtout pas le comprendre. Laisser advenir le film comme il est là. Et à ce moment-là, je verrai des images d'une beauté absolue. Si je veux comprendre un film de Godard, je ne vois pas le film de Godard parce qu'il n'est pas construit de telle sorte qu'il soit compréhensible. Jamais. Voilà. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question. C'est-à-dire que ce qui me reste des films de Godard, ce sont des images détachées de tout contexte signifiant.
Et pourtant, il y a de la parole.
Mais c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que il n'implique pas l'un dans l'autre. Il y a une articulation. Les images, le visuel, le visible d'un côté, l'audible, le compréhensible de l'autre.
Mais sans indifférence quand même.
Pardon ?
Sans indifférence de l'un à l'autre. Une image de chantier avec du silence, il n'y a pas une indifférence. C'est pas indifférence. Je pense à deux, trois choses que je sais d'elle.
Mais j'ai même filmé.
Il y a des images de chantier bruyant. Vraiment, le son se coupe au moment du plan séquence. Et du coup, c'est pas indifférent non plus qu'on voit un chantier, mais qu'il n'y ait pas le son.
Non, c'est pas indifférent.
Oui.
Non, c'est sûrement pas indifférent. Oui. Mais où est la question ?
Non, mais c'est-à-dire qu'il y a une articulation, effectivement.
Ouais. Et ce qui est dit n'est pas sans rapport avec ce qui est montré non plus.
Pas complètement, oui.
Rapport de temps, il y a un rapport de temporalité, c'est dit et c'est montré dans le même temps, mais il y a un peu plus que ça.
Alors, je veux dire les choses autrement. Je pense que beaucoup se demandent, comme si c'était la meilleure question et la plus spontanée, ce que les images de Godard signifient. Et donc, dans ce cas-là, c'est une sorte de méthode de travail. Pour pouvoir trouver ce que les images des films de Godard signifient, il faut évidemment chercher les raccords entre le registre du langage et le registre du visible. Je propose de faire la démarche dans l'autre sens. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher ce que les images signifient. Il faut au contraire chercher quand est-ce que les images s'isolent de la signification. Et je trouverai des réponses. Pas tout le film de Godard s'isole de la signification, pas toutes les images. Mais il y a dans les films de Godard des plans qui sont insignifiants. Voilà. Et je pourrais donner, je donne dans l'article un exemple de 3-4 plans de « Je vous salue Marie », dont je sais qu'ils ont été, parce qu'on fait des recherches pour ça, qu'ils ont été glissés dans le film de Godard, ils ont été tournés à l'improviste avec une caméra que Godard avait commandée à Boviala de lui fabriquer et qu'il a essayé, et qu'il a ensuite glissé dans le film. Alors on va s'acharner à trouver la signification de ces plans, il n'y en a pas. Voilà. Il y a un moment, un hérisson, il y avait la caméra, le hérisson passait par là, ils l'ont filmé, Godard l'a mis. Et je pense que c'est se débarrasser de la volonté signifiante qui permet d'accéder à la beauté des images des films de Godard. Donc c'est une question de méthode, finalement. Voilà. Si vous ne comprenez pas un film de Godard, ce n'est pas grave. Vous y êtes, justement, au film. Pour dire les choses comme ça.
Je crois qu'il y a la même chose. Je crois qu'il y a un témoignage de Jean-Marie Straub sur le Black Film et sur un coucher de soleil qui a été introduit en film extrémiste. Enfin,
bah, sans préavis. Bah oui, mais ça, ils étaient copains, hein. Mmh. Ouais. Bien sûr. Hein.
Mais pas par, mais un, effectivement. Pas beaucoup. Moi, j'avais une question.
En tout cas, Straub, il pensait, ça je le sais, parce que je l'ai connu personnellement. Hein. Je veux dire, il pensait séparément le visible et l'audible. Et il faut les deux pour faire un film. Mais c'est comme j'ai essayé de dire en commençant. Il est commun d'être faible pour commencer, et il est aussi commun d'être construit. Mais la faiblesse et la construction, on ne peut pas s'expliquer, si le mot convient encore après tout ce que j'ai dit, en tout cas dire, oui, bon, gardons-le pour discuter, ce que c'est qu'un être humain sans impliquer les deux. Mais le fait qu'il faille impliquer les deux ne signifie pas que les deux... ça implique l'un dans l'autre, il s'articule, il y a un lieu d'adjointement qui est par où la brèche. Je t'ai coupé.
Non, j'avais une question, mais oui. Complètement autre.
Ben, pas grave.
Mais du coup, j'avais peur de ne pas avoir le temps de la poser. Sans ça, j'ai enchaîné un peu. C'est une question un peu intéressée, puisque c'est quelque chose sur lequel, une chose sur laquelle je réfléchis, je travaille un peu en ce moment. Tu confrontais la logique symbolique et un autre réel. Et moi, j'avais en tête une autre catégorie qui est la fiction, que moi, comme ça, je rapprocherais volontiers de la pensée symbolique. Déjà parce que j'ai en tête Umberto Eco qui, à propos de la pensée symbolique du Moyen-Âge, met ça du côté, justement, dans une situation... Pas d'urgence, mais d'angoisse ou d'inquiétude, mais ça sur le compte d'une activité médico-poétique qui consisterait à s'échapper du réel, donc il me semble qu'on n'est pas loin de la fiction. Par ailleurs, il me semble que dans la situation d'urgence dans laquelle on est, notamment sur les questions écologiques, il y a beaucoup du propos écologique qui est pris en charge par le genre littéraire de la science-fiction, ou de l'héroïque fantasy, des choses comme ça. Alors je voulais savoir déjà si toi tu faisais une différence entre fiction et pensée symbolique ou logique symbolique. Quand tu dis que la logique symbolique, la logique symbolique consiste à mettre des significations sur ce qu'on fait, ça n'a pas l'air d'être de la fiction. Et quand tu dis que la logique symbolique consiste à se mirer dans sa propre activité, il me semble que ça pourrait ressembler à la fiction en littérature.
Juste pour dire, je vais répondre après sur ce qui est le plus manifeste, je crois, dans ta remarque ou ta question, mais ça marche dans les deux sens, hein, c'est-à-dire c'est peut-être la science-fiction qui met en logos les pensées ou la pensée écologique. Mais ça peut marcher aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, et ça je me demande s'il n'y a pas... alors moi je ne suis pas spécialiste, mais enfin par exemple quand je lis Frédéric Nera, je pense qu'il y a des choses là-dedans qui me donnent à penser que c'est aussi de la science-fiction que naît une partie du discours politique écologique. Bon. Donc il faut regarder les choses dans les deux sens. Après, sur fiction, à cette heure-ci, sans trop avoir prévu, même pas du tout la question, a priori, oui, je mets la fiction dans le symbolique. C'est une façon de ne pas être au réel que de le rendre fictif. Alors, on pourrait passer par des tas de problèmes de traduction. Enfin, au bout du compte, on arriverait sur la poétique d'Aristote. Et c'est très clair chez Aristote que la construction de ce qu'on pourrait ensuite par traduction nommer fiction, ça consiste à ne pas dire l'histoire comme elle s'est passée. Voilà, parce que l'histoire comme elle s'est passée... Elle est désordonnée, les gens s'en souviennent de façon heurtée. Il s'est passé ça, dit l'un, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Ça fait pas un récit, ça. Et c'est ce que commence par dire Aristote. Le travail du fabricant de fiction, du fingere, en latin par traduction, c'est de dire l'histoire non pas comme elle s'est passée, mais comme elle aurait pu ou dû se passer, en tout cas, d'y mettre de la logique, voilà, qui n'y s'y trouve pas, a priori. Donc c'est un rapport, c'est le cas de le dire, artificiel au réel, a priori, donc c'est pas le réel, quoi. Voilà. Ouais, tout ce que je dis... depuis plusieurs séances, hein, ça se lit, je l'ai rappelé comme j'ai pu au début de cette séance-là, un moment que j'appelle infantile ou de naïveté, enfin on peut trouver plusieurs façons, où je ne sais pas quoi dire. Voilà. Je ne peux pas me raconter d'histoire ou raconter d'histoire de ça, et peut-être que c'est pour toujours, si j'ai vécu quelque chose de décisif, dans cet ordre-là, je peux en faire un commentaire, pas l'expliquer, pas en rendre raison, c'est-à-dire je n'aurai jamais le dernier mot sur cette affaire. Le mot logique, le mot de la fin, etc. C'est pas un récit, quoi. Voilà. C'est pas un récit. La mémoire, dans ce qu'elle a de plus vif, on pourrait dire aussi vivace, vivifiant, elle n'est pas ordonnée. C'est des bribes, c'est des moments. Kairos, ce n'est pas chronologie.
Le souvenir de la vie.
Chronologique. Alors ça dépend comment vous le définissez, le souvenir. Enfin, il y a un « je me souviens » qui peut ne pas l'être. En fait, se défendre, si vous acceptez les expressions que je proposais en commençant, se défendre, c'est... De sa propre mémoire, hein, c'est la fictionner. C'est-à-dire, c'est ça, Freud, la psychanalyse, il me semble, nous l'a quand même un petit peu appris, si on veut bien y penser, quoi. Le roman personnel, comme on disait à une époque. Et c'est ça que nous cherchons à faire, nous autres, les sujets bien construits, bien défendus, etc. C'est nous remettre ainsi, dans notre roman personnel. Et notre mémoire implique des souvenirs qui ne rentrent pas dans ce roman. Ça s'appelle l'inconscient, le refoulement. Voilà. Et c'est pas rien. Voilà. Et peut-être le réel, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un retour de ce qui ne rentre pas dans les romans. soit les romans personnels, soit les romans en général, ou les fictions en général. Moi, ça m'agace beaucoup, par les temps qui courent, la place qui est faite au mot « récit ». Voilà. Et je pense que c'est une façon de ne rien dire, que de toujours penser en termes de récit. C'est-à-dire que la notion même de récit est construite depuis au moins l'époque d'Aristote pour que quelque chose ne soit pas dit, voilà. Qui est de l'ordre du réel. Et d'ailleurs, Ségalène, si vous le lisez, c'est pas un récit, hein, c'est des notes. C'est bon.
Vous parliez de récit, justement, aussi du caractère non synchronique de l'accident. Vraiment. Et ça me faisait penser qu'on n'a pas tous la même expérience au même moment. Justement, je me demandais si il pouvait y avoir des accidents qui pouvaient être collectifs et dont on pouvait parler autrement, justement, qu'en récit. Autrement qu'en création d'un récit collectif qui serait faussé, qui enlèverait les caractères individuels de l'expérience.
Est-ce que vous voulez bien me préciser, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu, est-ce que vous avez parlé d'un accident collectif ?
Je me demandais justement si l'accident pouvait être collectif, oui. Si on pouvait en faire un récit.
Alors,
si on pouvait en parler autrement qu'en récit.
D'un accident qui serait collectif. Alors, la première question, c'est si jamais je réponds non à accident collectif, je n'ai pas besoin de répondre à la deuxième. Alors, je réponds non à la première. Je m'épargne. Non, mais en fait, c'est ce que je pense. Hein, c'est-à-dire, en tout cas, je vais ouvrir une espèce de parapluie pour me protéger, puisque finalement, j'inscris ce séminaire. Ce que ça me fait penser de m'être mis à lire des textes sur Paul ou Paul lui-même depuis le mois de juin l'année dernière. Bon. Eh ben, si je reste dans ce cadre-là, qui n'est peut-être pas un cadre satisfaisant, mais si je reste dans ce cadre-là, je dirais ce que je comprends, je n'ai cessé de le dire ici, ce que je comprends dans les textes de Paul, c'est que ce que vous appelez un accident collectif, ça ne peut pas arriver. Ça se fait un par un. C'est-à-dire la révélation, elle n'est pas simultanée. C'est pour ça que c'est pas synchronique. Ça se fait. Donc, si c'est un accident qui est la condition de la révélation, de la conversion, enfin, il y a plusieurs mots pour le dire, il n'y a pas d'accident collectif. Voilà. Et donc, du coup, la deuxième question, je n'ai pas besoin de la traiter. Alors, est-ce que derrière votre remarque, vous voudriez dire quelque chose comme, ou me faire parler de quelque chose comme, quand même Tchernobyl, quand même Fukushima, c'est un accident collectif. Est-ce que, bon. Je vais réfléchir. Je ne crois pas que. Je ne crois pas que même cet événement-là ait été vécu aussi synchroniquement qu'on croit qu'il a été vécu. Les 12 000 Japonais qui sont morts, ils ne sont peut-être pas morts au même moment, ils ne sont pas morts dans les mêmes conditions. Enfin bon, c'est très compliqué. Alors après, une façon de ne pas affronter le vécu qui, lui, peut avoir une dimension collective... C'est précisément de le romancer en permanence. C'est ce que font, je crois, les médias. Les médias romancent, et du coup, le vécu, il n'en est pas question. Jamais. Enfin, il me semble. Alors, je ne suis pas en train de dire « Suivez-moi, j'ai la solution, je sais ce qu'il faut faire pour que les médias... Soit plus que je viens de dire. Non, peut-être que ça ne peut pas être autre chose, le média, que la construction et la mise en circulation d'un roman de la vie. Mais mon problème, c'est les illusions qu'on se fait là-dessus. Ce que j'ai dit dans la séance de ce soir, ça serait la différence qu'on ne fait pas entre ce qui est utile à la construction d'une personnalité et ce qui dépasse cette utilité, qui est la défense de cette construction. Voilà. Peut-être que nous ne pouvons pas vivre dans des communautés plus ou moins larges sans que se construisent des récits, ce qui ne veut pas dire que ce qui se récite suffit à décrire l'ensemble de la vie humaine. Voilà. Et qu'il y a bien des choses qui nous importent, qui ne se récitent pas.
Mais qui se témoignent, peut-être. Enfin, moi, ça me...
Alors, qui se témoignent ou qui... Pardon.
Non, mais autant la parole de Paul, après le moment de la révélation, qui n'est ni du récit. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment de la parole au sens que vous dites, vous? C'est-à-dire, oui, parce qu'il n'est pas en train de... reproduire des significations existantes, c'est une autre, enfin c'est une nouvelle parole. Mais comment la qualifier en fait cette parole-là? Mais de même du coup, puisqu'on parle de catastrophe et de trauma, la question du témoin, quoi, enfin du témoignage, qui est quand même hyper compliqué, quoi, parce que c'est en même temps, ça donne une certaine légitimité entre de grosses guillemets à cette parole-là qui est celle de la personne ayant vécu. Je pense notamment à des films du chilien. Merci.
Patricio
Cosme. Oui, pardon. Qui passe pas que par de la parole, d'ailleurs, le témoignage chez lui. Mais c'est vrai que c'est des qualités de parole.
Alors, il y a des questions très graves derrière ce que vous dites. Évidemment, derrière tout ce qu'on pense autour des accidents collectifs, etc. Évidemment, il y a des questions très, très graves. Bon. Mais comme nous ne sommes pas là, en tout cas pas moi, pour traiter ces questions et en décider, on n'est pas dans un lieu politique, on est dans un lieu de réflexion. Ma première question, ça ne veut pas dire... Vous savez la distinction que je fais entre le secondaire et le second. Bien des questions pas secondaires ne peuvent se traiter qu'en second. Bien des choses importantes, donc pas secondaires, ne sont pas des choses qu'on peut faire d'abord. Bon. Les questions qui sont dans votre question, je ne les considère pas comme secondaires. Mais d'abord... est-ce que vous seriez pas d'accord pour qu'on prenne un petit peu de temps pour se demander pourquoi faudrait-il dire tout? C'est-à-dire, pourquoi tout ce qui est important pour nous devrait, le signe de ça, ça serait que ça se dise d'une manière ou d'une autre. Je peux dire les choses autrement, peut-être qu'il y a des témoignages de quelque chose qui compte, qui importe, qui ne sont pas dans l'ordre du langage. Voilà. Et ça ouvre pour moi le champ de la question du faire, qui n'est pas dire. Je l'ai dit plusieurs fois dans les séances qui ont précédé. Bien sûr que, bon, en plus, je ne sais que trop. L'important, c'est peut-être les dégâts de la phrase quand dire c'est faire, hein, qui fait que du coup, il n'y a de faire que si c'est dit, ou que le dire lui-même serait un faire. Oui, certainement, c'est possible. Mais est-ce qu'on peut pas prendre un petit peu de temps pour ouvrir ce champ-là de réflexion? Et si nous avions quelque chose à faire qui ne se dise pas?
C'est juste que en fait la discussion me fait poser cette question-là, quoi. Et notamment, alors le témoignage c'est un cas effectivement compliqué,
ouais, c'est...
mais de même la parole de Paul, qu'est-ce que c'est que cette parole-là qui fait quand même suite à un moment, à un accident effectivement vécu pour sa personne, enfin de manière individuelle, singulière, etc. Seul. Et qui produit quand même la nécessité d'une parole, certes.
En même temps, il faut la lire. Alors ça a été tout un sujet au 19e siècle, etc., sur Paul, où les bons intellectuels bourgeois prétendaient donner des leçons de grec à un homme grec du temps, en disant « Paul, il parlait pas bien le grec, c'est pas terrible. » Enfin bon... Il y a toute une documentation à faire là-dessus, et il n'y a que des gens... Bon, en tout cas, ceux qui disent pas ça, sont des gens qui m'intéressent. Alors, Michelet ne dit pas ça, et au contraire. Bon, alors, bon, pour revenir à ce que je voulais vous répondre, c'est Oui, d'accord, Paul écrit, mais regardez comment. C'est-à-dire, c'est une écriture très morcelée, même dans les phrases. Alors, comme je suis bavard, je ne terminerai pas le séminaire comme j'avais pensé, mais je voulais le terminer, donc c'est peut-être l'année prochaine. Enfin, vous lire Paul en grec et me coltiner la traduction publiquement. Et il y a des problèmes incroyables de rythme de la phrase de Paul. Il n'y a pas d'article, il y a des balancements, mais qui ne sont pas symétriques. Si on essaye de traduire ça, voilà, on va s'apercevoir que c'est un texte qui est fait, j'allais dire, de blanc, de cassure, de rupture, de fragilité, dans l'écriture même. Voilà. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il n'y a pas, dans le dire, il peut y avoir aussi une dimension, mettons, rythmique. Et dans le rythme, il ne se dit rien. Le rythme, c'est un espacement. Le rythmos, ça veut dire d'abord, c'est pas un concept temporel, c'est d'abord un concept spatial. Ça désigne un écart, une façon d'écarter les mots, voilà, qui fait que c'est pas n'importe quelle façon de dire, en tout cas. Voilà. Et donc, il y aurait sûrement beaucoup de choses à penser, même pour les médias aujourd'hui, sur la façon d'écarter, de mettre du silence, par exemple. Hein. Même ça tient tout, beaucoup de choses très importantes tiennent à des détails. Le refus du blanc, ce qu'on appelle un blanc à la radio. Et pourquoi donc? Un petit silence de temps en temps. Voilà. Vous voyez, finalement, que le monde soit jamais silencieux, ça nous fait peut-être pas du bien. Et alors, je vous dis pas maintenant qu'il faut se balader avec. Sinon vous n'êtes pas in. Hein. Toujours, j'ai vu des gens dans le métro en revenant, ça m'a sidéré. Quoi. Incapable de. Je pense qu'ils vont souffrir, quoi. Beaucoup, beaucoup. Incapable de ne rien avoir dans les oreilles. Dans le sens de son, de bruit, de parole. Bon. Donc c'est ça que je mettais en question ce soir en disant nous sommes pleins, trop pleins, suffisants, enfin la suffisance des significations alentour. Et. Voilà, je plaide pour un peu de blanc dans les mots.
Voilà. Moi, j'avais une remarque qui n'est pas sans rapport peut-être à la question du rythme, en tout cas du discontinu. Quand tu évoquais une mémoire qui n'était pas ordonnée, qui était peut-être discontinue, qui fonctionnait par bribes ou par moments, alors ça m'a fait penser à quelque chose, je vais y venir, dans la famille des fictions, symboles, etc., il y a aussi le genre de la fable.
Le genre de la ?
De la fable, enfin, qui est un peu à la mode, quoi. Enfin, il y a un livre de Nancy Houston qui prétend qu'on est une espèce affabulatrice, inceptive. Et je me souviens avoir lu dans le discours de Stockholm de Claude Simon, qui soutenait une littérature pas désengagée, du monde, une critique justement de la fable et une fin de discours qui expliquait ce que c'était qu'une littérature et qui était une suite de tableaux.
En tout cas, dans l'écriture de Claude Simon, il y a des ruptures. Ouais, ouais. Hein, c'est ça. Alors là, des ruptures chronologiques, il y en a. Bon, voilà.
Alors, il se dégageait de la fable, mais il se dégageait aussi d'une certaine sorte de roman réaliste. Qui l'estimait être un développement du genre de la fable, mais le genre de la fable qui, pour être plus crédible, en fait, aurait intégré de la description.
Nous sommes d'accord. Ouais. Et ça, ce sont des opérations qui sont à portée de gens comme nous. Voilà. Parce que refaire le monde de fond en comble, c'est trop pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas beaucoup de force? Voilà. Mais quand même, mettre de l'écart dans les mots, ça on peut tous les jours. Voilà. S'intéresser à cette littérature que tu dis, ça on peut faire tous les jours. Voilà. Et je me demande si petit à petit, ça n'aurait pas plus de conséquences. Apparemment, j'ai dit ce soir, hein, apparemment le converti revient dans le monde, comme il n'est pas synchronisé avec d'autres, apparemment c'est sans conséquence. Voilà. Mais petit à petit. Bon. ou peu à peu. Et si on arrêtait pour ce soir ? Je suis pas contre, parce que je suis un peu fatigué.
Merci.
Merci.
Au revoir à tout le monde et merci pour votre attention et patience. Je n'arrive pas à voir, mais peut-être je vais voir là.
On vous répond merci beaucoup, Christian Perrin. Pareil, Catherine Sagan. Merci beaucoup, à bientôt. Et aussi, merci. Thank you.